Biographie de Pen, suite. Partie vie chapitre Xi Pen projette de retourner en Amérique. Pierre le Grand de Russie était alors un jeune homme vivant incognito en Angleterre et travaillant dans les chantiers navals, afin d'éclairer son esprit barbare sur cette chose curieuse qu'est la civilisation, dont il avait entendu dire qu'elle rendait une nation puissante. Il pensait qu'elle pourrait accomplir quelque chose dans ses propres déserts glacés. Les Quakers, en particulier Pen, le recherchèrent. Il n'était guère un matériau prometteur pour un prosélyte et demanda à quoi une nation pouvait bien trouver un usage terrestre d'un peuple qui ne voulait pas se battre. Mais Pen lui parla en allemand et lui donna des livres Quakers allemands, avec pour résultat, dit-on, qu'il conserva toujours un grand respect pour les Quakers et qu'une fois, au Danemark, il assista à l'une de leurs réunions. Nous retrouvons aussi Pen à son ancien travail, écrivant des brochures sur la doctrine Quaker et se livrant occasionnellement à la controverse avec les adversaires de sa foi. À cette époque, nous le trouvons proposant au Lord of Trade un plan d'union ou de gouvernement général pour les colonies d'Amérique, qui est tout à fait remarquable car il préfigure certaines dispositions de notre Constitution nationale. Il est agréable de retrouver Pen enfin lui-même après avoir été si longtemps obscurci par le jacobitisme, et son esprit était toujours à son meilleur lorsqu'il proposait des améliorations bien en avance sur son temps. Il voulait un gouvernement général pour les colonies, afin d'unifier les droits de douane, de réglementer le commerce et les contingents militaires, et de renvoyer les débiteurs en fuite. Autrement dit, il fut le premier à attirer l'attention du public sur ces difficultés et il suggéra le remède qui, dans les 100 années suivantes, fut mis en œuvre par le peuple américain. C'est probablement à cette période qu'il prêcha le mieux, et son sermon d'adieu avant d'embarquer pour la Pennsylvanie a été conservé, le seul de ses sermons, autant que je puisse en juger, qui ait été pris en note et gardé pour la postérité. Les sermons Quakers ne sont pas d'une sorte qu'on admire dans d'autres confessions, et presque aucun n'a été conservé, parce que les Quakers croyaient qu'il y était prononcé par l'Esprit pour cette réunion particulière seulement. Ce sermon de Pen se lit comme un bon sermon, sans être remarquable, et semble avoir une tonalité plus moderne que ce à quoi nous nous serions attendus. Nous avons un léger aperçu de sa vie et de ses méthodes à cette époque dans le récit de sa visite d'adieu à Thomas Story, qui allait appareiller pour l'Amérique. Pen, avec d'autres amis de Story, monta à bord du navire et Pen, après qu'ils furent restés ensemble assis dans un silence solennel, apparut en supplication pour le bien-être et la préservation de tous les présents, dans une reconnaissante révérence pour toutes les faveurs de Dieu, et surtout pour la précieuse jouissance de sa présence divine qu'ils éprouvaient alors. C'était un homme aux multiples facettes, ce courtisan Quaker, dans de telles occupations 6 années s'écoulèrent. Au sixième mois de 1699, William Pen, avec sa femme et sa famille, s'embarqua pour la Pennsylvanie sur le navire Canterbury, et depuis le bord alors qu'il mouillait à l'île de Wight, il adressa une épître d'adieu à ses amis dispersés en Angleterre, Irlande, Écosse, Hollande, Allemagne et autres régions d'Europe, dont voici un extrait. « Maintenant, mes chers amis que je connais et aime, et vous aussi que j'aime véritablement, quoique je ne vous connaisse pas personnellement, puisque le bon Dieu sage entre tous a voulu. Et assurément mon âme est inclinée dans d'humbles prières vers le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, vivant et puissant, afin qu'il vous soit bien ici-bas et pour toujours. Bien que Dieu nous soit apparu et nous ait donné de nombreux et indéniables témoignages que c'était lui, et nul autre qui atteignit nos cœurs, toucha nos consciences et nous amena à confesser, oui, et à abandonner aussi ce qui l'offensait en grande mesure, béni soit son nom, pourtant nous ne devons pas nous arrêter ni prendre ici notre repos, nous devons veiller encore, prier encore, combattre encore ce bon combat de la foi, jusqu'à ce que nous ayons vaincu l'ennemi de nos âmes. Et même alors, il nous faut veiller et prier, et cela jusqu'à la fin de nos jours, afin de ne pas perdre cette couronne de gloire que Dieu, le juste juge, donnera à tous ceux qui aiment son apparition, vainquent et persévèrent jusqu'à la fin. Car soyez assurés que nous moissonnerons si nous ne défaillons pas, mais nous défaillirons si nous n'attendons pas de Dieu, qui seul est la force de son peuple. Dieu ne manque pas. Celui qui longtemps s'est tenu à la porte de nos cœurs, sous notre impénitence des temps passés, jusqu'à ce que ses boucles soient mouillées de rosée et ses cheveux des gouttes de la nuit, jusqu'à ce que nous soyons éveillés de notre sécurité charnelle et que nous en venions à nous juger nous-mêmes, à une repentance sans fin, assurément il ne se lasse pas d'attendre pour faire grâce maintenant à son pauvre peuple, surtout s'ils sont pauvres en esprit et affamés et assoiffés de justice. Et bien qu'il y ait des Balaam, qui peuvent être loués par les Balaks de notre époque pour maudire notre famille d'Israël de Dieu, qui sait si même certains d'entre eux ne vivront pas encore assez pour dire, avant de mourir, que tes tentes sont belles, Jacob, que ta demeure est agréable, Israël. Mais alors, amis, nous devons garder nos tentes, nous devons être un peuple retiré et particulier, et demeurer seuls. Nous devons nous tenir au-dessus du monde, à l'écart de son esprit, et de ses nombreuses bagatelles, soucis et troubles qui y abondent. C'est en Christ que vous avez la paix, dans le monde est le trouble, demeurez donc en celui qui s'est appelé lui-même, et que nous avons trouvé tel, le chemin, la vérité et la vie, et vous vivrez parce qu'il vit. Lui la racine, vous les branches par qui vous serez gardés verts et féconds, portant les fruits et les grâces du Saint-Esprit dans tous vos rapports et vos échanges, afin qu'on voie et qu'on dise « Dieu est avec vous et parmi vous ». Oh, que l'humilité, la charité, la douceur et le renoncement à soi brillent parmi vous. Ainsi vous viendrez à siéger, comme les chrétiens primitifs, dans les lieux célestes en Christ Jésus, et vous serez préservés au milieu du bruit, des pièges et du tumulte de ce monde mauvais présent. Mais l'état de certains, qui prétendent suivre Christ et pourtant sont loin, affecte mon esprit. Mes chers amis, laissez-moi vous persuader, en cet adieu, de tourner vos esprits vers l'intérieur et d'attendre de sentir votre Rédempteur et de le rencontrer dans la voie de ses justes jugements, car il n'y a pas de rédemption sans jugement, ni de conversion sans justice. Venez et soyez baptisés par Christ, il vous baptisera de son feu et du Saint-Esprit. Ainsi vous en viendrez à trouver votre part en Christ, à mesure que vous sentirez son œuvre et son action en vous et sur vous. Et comme vous en viendrez ainsi à être liés à Christ, la tête céleste, en le connaissant comme tête en vous, vous en viendrez aussi à être liés à son corps, l'Église, et à voir votre juste appartenance et votre service en son sein, ce que je prie Dieu d'accomplir pour sa gloire et votre consolation. Et maintenant, à toute la famille et au troupeau de Dieu, dans cette partie européenne du monde, de la même communion selon la dispensation de Dieu, qu'il soit grand ou petit, jeune ou vieux, riche ou pauvre, sage ou simple, fort ou faible, homme ou femme, esclave ou libre, j'envoie ce salut d'adieu de mon très cher amour dans la vérité, vous suppliant tous de vous souvenir de moi et des miens, non seulement sur les grandes eaux, mais dans les déserts solitaires d'Amérique, s'il plaît au Seigneur de nous y conduire sains et saufs. Je dois vous quitter, mais je ne pourrai jamais vous oublier. Et permettez-moi de dire que, selon mes moyens, je me suis, dès le commencement, efforcé de vous servir, ainsi que mon pauvre pays, et cela à mes propres frais, avec un esprit droit, bien que mal compris et mal traité par certains que je pardonne de tout cœur. Agréez mes services, et aimez et souvenez-vous toujours, mes chers amis et frères, de votre vieil ami vrai et affectionné, frère et serviteur, en Christ Jésus, William Penn. Le roi William avait retiré à William Penn le gouvernement de la Pennsylvanie, probablement parce qu'il pensait qu'une colonie gouvernée par un ami quaker de James Stuart pourrait facilement devenir la proie de la cupidité française. Mais lorsque le roi et Penn se réconcilièrent, la province fut rendue à Penn, en août 1694. Bien qu'il fût impatient de revoir sa nouvelle ville de Philadelphie, ce ne fut que 5 ans plus tard que Penn put traverser l'Atlantique. Cela était en grande partie dû au fait qu'il lui restait très peu d'argent. Sa colonie de Pennsylvanie lui avait coûté beaucoup d'argent, et bien qu'il eût attendu de grands retours des terres et des produits naturels, il s'aperçut que la colonie entraînait des ponctions toujours plus grandes sur sa bourse. Les colons ne payaient même pas le très faible cent d'un shilling par an pour chaque 100 acres et sollicitaient constamment l'aide de Penn. Ses domaines en Irlande ne rapportaient aucun profit et la propriété de Worminghurst qui avait appartenu à Madame Penn avait été laissée en fiducie à son fils aîné, Springett Penn, qui avait alors environ 19 ans. Tout ce que Penn recevait de cette propriété suffisait à entretenir et éduquer les 3 enfants. Pendant qu'il resta en Angleterre, il se remit à prêcher et constata qu'à présent, sous William et Mary, les Quakers jouissaient de la plus pleine liberté pour tenir leurs réunions et que la persécution religieuse appartenait au passé. Sa prédication eut beaucoup de succès. Partout où il parlait, de grandes foules se rassemblaient pour entendre les paroles d'un homme à l'histoire si remarquable, qui avait été l'ami intime du roi James et qui s'était caché pendant quelques années. Penn était incontestablement un orateur très éloquent, et ses nombreuses expériences durent ajouter beaucoup à l'intérêt de ce qu'il avait à raconter aux Quakers, menant une vie tranquille des campagnes anglaises. Pendant ce temps, bien des choses s'étaient produites en Pennsylvanie. L'histoire de la province avait été faite de haut et de bas, nombre de ses difficultés venant du fait que, pendant 15 ans, Penn avait été contraint de s'en tenir éloigné. Il y avait eu de nombreuses querelles entre les colons et les hommes nommés pour gouverner la province, mais malgré les désaccords, la colonie avait grandi jusqu'à compter désormais près de 20 000 habitants. Lorsque Penn quitta sa colonie en 1684, il avait confié le pouvoir à un conseil de 18 hommes, et chacun des 18 avait estimé qu'il était de son devoir de tout gouverner. Quand il apprit que ce système fonctionnait mal, Penn tenta de réparer les choses en supprimant le conseil et en nommant 5 commissaires. Mais cela ne marcha pas très bien non plus, et en moins d'un an Penn nomma un ancien soldat de l'armée de Cromwell, le capitaine John Blackwell, pour remplacer les commissaires et agir comme gouverneur adjoint. Les Quakers, toutefois, n'aimait pas être dirigé par un soldat et rendir les choses si difficiles au capitaine Blackwell qu'il démissionna. Il y eut alors un autre conseil, puis un autre gouverneur adjoint, si bien qu'en 10 ans la forme de gouvernement changea pas moins de 6 fois. Lorsque William Yee retira la province à peine, il nomma un capitaine général, le colonel Benjamin Fletcher, qui servit jusqu'à ce que la colonie fût rendue à peine 1 an et 10 mois plus tard. Penn nomma alors son cousin Morcom gouverneur adjoint avec 2 assistants. Morcom, bien qu'il eût la vie dure, parvint à rester en fonction jusqu'à ce que William Penn puisse le rejoindre en 1699. Pendant tout ce temps, Penn payait des salaires et dépensait de l'argent pour sa demeure de Pensbury sans rien recevoir en retour. Il y avait une autre raison qui poussait Penn à retourner dans sa colonie dès qu'il le pourrait. Le roi William devenait impatient des récits qu'il entendait sur la mauvaise administration de la Pennsylvanie et était résolu à ce que l'on fasse quelque chose pour asseoir les choses sur des bases plus stables. Ainsi, sous l'insistance d'amis à la cour qui connaissaient l'état d'esprit du roi, Penn rassembla l'argent qu'il put et le 9 septembre 1699, s'embarqua avec sa femme et sa fille Letitia sur le navire Canterbury à Southampton. Le voyage fut long et orageux, mais 3 mois plus tard, vers la fin de novembre, le navire atteignit l'embouchure du Delaware. Le navire remontait le fleuve si lentement que, lorsque Newcastle fut atteint, Penn le quitta et se fit ramer jusqu'à Chester. Beaucoup de colons, apprenant l'arrivée du propriétaire de la province, accoururent à Chester pour l'accueillir. Parmi eux se trouvait un Quaker bien connu en Angleterre, Thomas Story, qui avait beaucoup voyagé en Amérique. Penn et Story passèrent la nuit ensemble dans la maison de Lydia Wade, près de Chester, et Story raconta au propriétaire tout ce qui s'était passé dans la province, y compris le fléau de la fièvre jaune, ou mal de la Barbade, comme on l'appelait souvent, qui avait frappé Philadelphie peu de temps auparavant et s'était révélé fatal à plus de 200 personnes. Le lendemain, Penn retourna sur le Canterbury et navigua jusqu'à Philadelphie. Là, il débarqua, rendit une brève visite à Morcom, le gouverneur adjoint, puis se rendit à la salle de réunion Quaker, où il prêcha devant une grande assemblée. Il amena avec lui à Philadelphie un jeune homme nommé James Logan, qui faisait office de secrétaire. Avec le temps, Logan devint le principal représentant de Penn et l'un des plus sages de ceux qui aidèrent à gouverner la province. Penn n'avait pas de maison à lui à Philadelphie, aussi, avec sa femme, sa fille Letitia et James Logan, resta-t-il 1 mois chez Edward Shippen, puis s'installa dans l'une des plus grandes maisons de la ville, alors connue sous le nom de la maison au toit d'ardoise. Elle se trouvait du côté de Second Street, entre Chestnut et Walnut. C'est là que naquit son fils John, et l'enfant fut toujours affectueusement appelé John l'Américain. La plupart des habitants de Pennsylvanie, et particulièrement les Quakers, étaient très heureux de retrouver Penn parmi eux. C'était un homme parfaitement capable de gouverner, mais en général peu heureux lorsqu'il s'agissait de choisir d'autres personnes pour gouverner à sa place. Il y avait un homme, le colonel Quarry, qui semait la dissension et la défiance à l'égard de Penn dans la province, mais Penn le fit venir et après un entretien, Quarry admit qu'il avait eu tort et les deux devinrent amis. L'une des choses que Penn apprit bientôt, ce qui nous paraît assez étrange, c'est qu'il y avait beaucoup de piraterie dans les environs de sa province et que nombre de pirates vivaient en fait confortablement à Philadelphie. Il ne fallut pas longtemps à Penn pour s'en occuper. Il les fit bientôt arrêter et punir d'une manière qui témoigna de son énergie et de son zèle. D'autres crimes et torts, il les punit ou les corrigea, et les Quakers se rendirent vite compte qu'ils avaient raison de croire que leur gouverneur était un aussi bon administrateur qu'il était prédicateur. Après un voyage de plus de 3 mois, le gouverneur de Pennsylvanie, sa femme, sa fille et leur suite arrivèrent dans leur foyer américain et furent accueillis de la manière la plus chaleureuse. Penn avait amené avec lui comme secrétaire James Logan, Irlandais de naissance, ses parents étaient tous de Quakers. Privés d'un domaine en Écosse, ils s'étaient installés à Lurgan, où James reçut sa première instruction. Finalement, la famille s'installa à Bristol, ce qui conduisit à sa connaissance des Penn, dans une lettre à William Penn, J.R. Annonçant leur arrivée saine et sauve, Logan dit de l'accueil reçu à cette occasion. Les termes les plus élevés que je pourrais employer donneraient à peine une idée de l'accueil que votre père a reçu de la plupart des gens les plus honnêtes d'ici. Les amis conclurent généralement qu'après tous leurs troubles et leurs déceptions, cette province ne manquait désormais presque plus de rien pour la rendre complètement heureuse. La faction qui, depuis longtemps, s'employait à renverser la Constitution établie reçut un découragement universel. L'amour des amis pour le gouverneur était grand et sincère. Ils avaient longtemps pleuré son absence et désiraient passionnément son retour. Lui, ils en étaient fermement persuadés, apaiserait toutes leurs difficultés et réparerait tout ce qui allait de travers. Le gouverneur et sa famille, après avoir passé quelque temps en ville, s'installèrent à Pensbury Manor. Avant leur départ, le premier fils de Hannah Penn naquit, on le nomma John et on l'appelait l'Américain. Cet hiver-là, il fut très occupé. Il tint des réunions de son conseil et fit adopter de nouvelles lois, prêcha aux Quakers de Pennsylvanie et du New Jersey, arpenta un domaine de 10 000 acres à Rock Hill, dans le comté de Buck, pour son fils John, et supervisa les réparations de sa résidence de campagne à Pensbury. Lors d'une réunion du conseil, William Penn, avec la sagesse qu'on lui connaît, leur dit « Amis, bien que cette colonie existe depuis 19 ans, et ne soit inférieure à aucune de celles de son âge quant à son établissement, nous avons pourtant beaucoup à faire pour constituer une constitution libre et y organiser les tribunaux de justice. Il s'y trouve des lois que l'on peut considérer comme obsolètes, d'autres nuisibles, d'autres imparfaites qui auront besoin d'amélioration, et il faudra en établir de nouvelles. Nous ne pouvons aller trop lentement pour les faire, ni trop vite pour les exécuter une fois faites, et cela avec diligence et discernement. Vous, amis, êtes le choix du peuple et mon conseil. Vous verrez quelles lois il convient d'écarter et quelles lois il convient de faire, et vous, avec moi, devez les préparer et les proposer. Je dis cela d'autant plus qu'une fausse notion s'est installée chez certains, parce que vous êtes mon conseil, vous ne seriez pas les représentants du peuple. Les hommes les plus capables ont toujours été choisis pour faire partie du conseil afin de préparer les lois, et l'Assemblée doit y consentir. Bien que nous soyons deux corps, nous ne sommes pourtant qu'un seul pouvoir, l'un prépare, l'autre consent. Amis, si dans la Constitution par charte il y a quelque chose qui grince, changez-le. Si vous voulez une loi pour ceci ou cela, préparez-la. Je vous conseille de ne pas badiner avec le gouvernement. Je souhaiterais qu'il n'y ait besoin d'aucun, mais puisque les crimes prévalent, le gouvernement est rendu nécessaire par la dégénérescence de l'homme. Le gouvernement n'est pas une fin, mais un moyen. Celui qui le tient pour une fin vise au profit, pour en faire un commerce, mais celui qui le tient pour un moyen comprend la véritable fin du gouvernement. Amis, loin de vous toutes les factions, regardez-vous vous-même, et regardez ce qui est bon pour tous en tant que corps politique, d'abord comme sujet du roi et de la couronne d'Angleterre, puis comme dépendant de moi par l'être patent de cette couronne. Recherchez la paix et soyez unis, pourvoyez au bien de tous, et je ne souhaite voir mon intérêt que dans la prospérité publique. La dernière assemblée a fait 2 lois contre la piraterie et le commerce interdit. J'entends dire qu'elles n'ont pas reposé paisiblement dans les registres de certains, mais j'espère que, puisque nous y avons pris soin, nous aurons des remerciements de les avoir faites avant d'en avoir reçu l'ordre, et après tant de calomnies et de plaintes dont on nous a chargés, j'espère que ces 2 lois nous laveront, dans une certaine mesure, de tout reproche. Quant à ce qui me concerne, je vous le laisse aussi à considérer. Voilà 19 ans que je suis votre propriétaire et gouverneur, et j'ai, à mes frais, entretenu mon adjoint, ce qui m'a beaucoup nui, à moi et à mon patrimoine. J'espère que nul ici ne s'étonnera de m'entendre en faire mention. Il exhorta les colons à faire de leur prison non pas seulement des lieux de contrainte, mais des ateliers et des maisons de réforme, et de ce fait, les prisons de Pennsylvanie furent bien mieux administrées que celles des autres colonies. Il introduisit la coutume de faire passer un veilleur de nuit dans les rues, criant l'heure, le temps qu'il faisait et toute nouvelle d'intérêt. De bien des manières, il améliora les conditions, montrant qu'il avait un véritable génie pour gouverner et un intense désir de faire de sa province un lieu idéal où vivre. Au début de la colonisation, on avait acheté quelques Noirs comme travailleurs à Pensbury, et ils continuèrent à être employés avant la dernière visite de William Penn, mais, avant de retourner une nouvelle fois en Angleterre, il prit des dispositions pour qu'ils obtiennent tous leur liberté. Dans un testament laissé à cette occasion à James Logan, afin d'assurer parfaitement leur affranchissement, il dit « Je donne à mes Noirs leur liberté, comme c'est déjà sous ma main, et au vieux Samson Acre de Terre, pour appartenir à ses enfants après qu'il et sa femme seront morts à perpétuité. » Il se souciait vivement de l'instruction générale et du soin religieux des Noirs employés ou possédés par les colons. Pendant son séjour en Pennsylvanie, il s'efforça, par voie légale, de leur garantir les droits légitimes qu'il voyait ne pas leur être accordés par leurs propriétaires, et il présenta une mesure en ce sens aux représentants provinciaux, mais ses tentatives furent mises en échec à la Chambre d'Assemblée. Au sein de sa propre société religieuse, il eut davantage de succès, comme le prouvent les procès-verbaux de la réunion mensuelle de Philadelphie. Beaucoup d'amis, à cette époque et peu après, affranchirent leurs esclaves bien avant que cela ne devienne une règle impérative de la société. L'Assemblée législative de Pennsylvanie adopta en 1688 une résolution s'opposant à l'esclavage, première action connue d'un organisme gouvernemental dans les colonies, sans doute encouragée par Penn. En 1671, George Fox, proche associé de Penn et père des Quakers, exhorta les propriétaires d'esclaves Quakers à donner la liberté à leurs esclaves après 30 ans de service. C'était une proposition radicale pour l'époque, mais très biblique. Il milita vigoureusement contre l'esclavage. En citant ci-dessous dans ce même livre, l'un de ses derniers efforts fut en faveur des esclaves noirs de la province. En 1692, il avait tenté d'obtenir justice pour ces gens, mais en vain. À présent, il estimait plus fortement que jamais qu'il était mal d'importer des Noirs dans le nouveau pays comme esclaves. Il œuvra en ce sens jusqu'à amener l'Assemblée coloniale à chercher à décourager ce trafic en imposant un droit sur l'importation d'esclaves. En 1711, ils prohibèrent à l'avenir une telle importation, mais à peine la nouvelle de cette bonne loi eut-elle atteint l'Angleterre que le gouvernement, là-bas, malgré les efforts de Penn, annula l'acte de Pennsylvanie. Note des éditeurs du site. Les deux biographes laïcs, Rupert et Fichet, trahirent soit leur ignorance, soit leur préjugé contre un homme guidé par des principes chrétiens, en disant que Penn était un propriétaire d'esclaves, sans la moindre pensée de les affranchir, insinuant qu'il était un véritable hypocrite chrétien. Il semblait prendre plaisir à souligner leur observation erronée. Il semble que ceux qui ne comprennent pas la religion intérieure des premiers Quakers souhaitent trouver des preuves d'une conduite non chrétienne, apparemment par défiance envers quiconque professe les enseignements de Christ, ce qui est très compréhensible, puisqu'il est probable qu'ils n'avaient vu, toute leur vie, que des hypocrites chrétiens. Au début du printemps 1700, Penn s'installa dans son manoir de Pensbury, à 20 milles en amont du fleuve. Il était construit en briques, dont la plupart avaient été apportées d'Angleterre, et se trouvait à environ 100 perches de la rive du Delaware. Derrière s'étendaient de profondes forêts, parcourues seulement par quelques routes et sentiers. Son éloignement dans la nature sauvage rendait la construction plus coûteuse, mais Penn aimait la campagne. Dans ses maximes, il disait « La vie à la campagne est à préférer, car là nous voyons les œuvres de Dieu, mais dans les villes, nous ne voyons guère que les œuvres des hommes, et les œuvres de Dieu offrent un meilleur sujet de contemplation que les œuvres de l'homme. » C'était la résidence la plus imposante que l'on put trouver entre les fleuves Hudson et Potomac, et elle avait peu d'égales à New York ou en Virginie. La maison et le domaine de Pensbury, qui était leur résidence d'été, sont ainsi décrits par Janet. Ce beau domaine était situé dans le comté de Buck, à 4 milles au-dessus de Bristol, sur le fleuve Delaware. Il comprenait plus de 6 000 acres de fertile sol alluvial, pour la plupart couverts de forêts majestueuses, et alors qu'il était en possession d'un roi indien, il portait le nom de ce bassin. Il s'étendait sur environ 2 milles le long du Delaware, entre Governor's Creek et Welcome Creek, ce dernier, en formant un coude, l'enfermant presque à l'arrière et lors des hautes eaux le transformant en île. Le manoir, construit en 1682 et 1683, avec des améliorations ultérieures, coûta 5 000 livres, somme importante pour l'époque. Ce bel endroit sur les rives du Delaware, associé à quelques-uns des jours les plus heureux du grand philanthrope chrétien, n'offre presque plus au regard du voyageur, lorsqu'il remonte le fleuve, aucun vestige de Pensbury Manor. Le manoir a disparu et une confortable ferme occupe son emplacement. On dit qu'un réservoir qui fuyait, au sommet de la maison, aurait été la cause de la ruine prématurée du bâtiment, qui s'étendait sur environ 60 pieds de façade, dominant le fleuve depuis une élévation modérée. Il était entouré de jardins et de terrasses disposées avec goût, avec des perspectives s'ouvrant sur des vues de bois lointains, et à nouveau en remontant le fleuve jusqu'aux chutes du Delaware. Le gouverneur, après son premier retour en Angleterre, continua d'envoyer des arbustes et des arbres d'Europe, à mêler aux variétés indigènes dans les parterres d'ornements autour de la maison. Il envoya ensuite des instructions aux jardiniers concernant leur disposition, ainsi que la collecte et la culture des belles fleurs indigènes qui poussaient dans les bois environnants. Le mobilier et les tentures de Pensbury, comme nous l'apprenons d'un inventaire qui existe encore, semblent avoir été élégants et de bon goût, convenant à la condition et aux habitudes de ses occupants. La famille du manoir utilisait des véhicules de diverses sortes, parmi lesquels sont mentionnés un carrosse, un capot rabattable sur une voiture attelée, et une chaise à porteur, mais on nous dit qu'ils préféraient généralement monter à cheval quand ils étaient à la campagne. Le moyen de transport habituel du gouverneur entre la ville et sa maison de campagne était une grande barge, avec un mât et 6 avirons, pour laquelle il semble avoir une préférence marquée. Écrivant à James Harrison, son intendant, et lui recommandant les plantes à sa vigilance, il dit « Mets par-dessus toutes les choses inanimées ma barge. J'espère que personne ne l'utilise en mon absence et qu'elle est gardée au chantier, couverte et protégée des intempéries. » On nous dit que lorsqu'il se rendait en barge entre Philadelphie et Pensbury, il s'arrêtait fréquemment à Burlington pour voir le gouverneur Jennings du New Jersey, qui était aussi un ministre éminent parmi les amis. En une occasion, Jennings et quelques-uns de ses amis fumaient tranquillement leurs pipes, pratique que Penn et les Quakers désapprouvaient. Apprenant que la barge de Penn était en vue, ils rangèrent leurs pipes afin de ne pas importuner leur ami et s'efforcèrent de lui cacher ce qu'il faisait. Il les surprit toutefois assez soudainement et remarqua aimablement qu'il était content de voir qu'ils avaient assez le sens des convenances pour avoir honte de cette pratique. Jennings, qui était rarement à court de réponse, répliqua qu'il n'en avait pas honte, mais qu'il s'abstenait pour éviter de blesser un frère faible. Il disait que la foi du fumeur était si forte qu'il pouvait fumer sans culpabilité, tout en disant explicitement que la foi de Penn était trop faible pour pouvoir fumer sans culpabilité. Or, si fumer n'est pas un péché tel que défini par l'Écriture, c'est clairement une pratique malsaine. Ainsi, le gouverneur du New Jersey avait tort et déformait l'Écriture pour satisfaire ses plaisirs charnels, donc pour leur propre destruction. La maison avait deux étages, avec un haut grenier pour les chambres des domestiques, et les murs principaux avaient 18 pouces d'épaisseur. Il y avait une grande salle au rez-de-chaussée, où Penn tenait les réunions de son conseil, donnait des réceptions et accueillait les chefs indiens qui venaient fréquemment le voir. Un salon et une salle de réception se trouvaient au nord de la grande salle, une bibliothèque et une salle à manger au sud. Comme c'était l'usage alors, la cuisine était un bâtiment séparé, mais relié au manoir par un passage couvert. Derrière la cuisine se trouvait un bâtiment appelé la brasserie, où l'on brassait de la bière et de la bière forte. Il y avait aussi une buanderie et une écurie pour 12 chevaux, et à chaque extrémité de la maison principale, de petits bâtiments, dont l'un servait de bureau à Penn pour traiter les affaires de sa province, l'autre pour les affaires de son domaine privé. C'était ainsi que les grands propriétaires fonciers de l'époque coloniale concevaient leurs habitations et leurs bureaux. Quand Penn se rendait à Philadelphie, il descendait généralement le Delaware dans sa barge privée, ramée par six rameurs. Il semble avoir apprécié ce mode de déplacement et avoir pris grand plaisir aux paysages le long du large fleuve. Des jardins s'étendaient de sa maison jusqu'au bord de l'eau, et il transplanta sur ses terres de nombreuses fleurs sauvages indigènes, en plus de planter des noyers, des aubépines, des noisetiers et des arbres fruitiers qu'il avait apportés d'Angleterre. Il vivait avec beaucoup d'élégance, car William Penn, malgré ses exhortations à la simplicité en toutes choses, se sentait, dans sa liberté chrétienne, autorisé à apprécier et à jouir du luxe relatif des nécessités de sa charge. Il avait de très belles chaises et tables en chêne et en noyer, des rideaux de satin, une cave à vin bien garnie et six grandes citernes pour contenir de l'eau ou de la bière. En tant que gouverneur de la colonie, on attendait de lui qu'il reçoive de nombreux officiels et visiteurs dans sa maison, il lui fallait donc de telles installations pour remplir ses fonctions. Souvent, il jouait le rôle d'hôte pour de nombreux Indiens, et l'on dit qu'une fois il les reçut à une longue table dressée dehors, servant sans dinde et une grande quantité de venaison, tous deux issus des bois environnants et au goût tant des Indiens que des Blancs. Les affaires du gouvernement durent occuper une grande part de ses soins et de son attention, car bien des choses s'étaient déréglées. Mais deux sujets réclamaient tout particulièrement sa considération, l'instruction et la civilisation des Indiens, et l'amélioration de la condition des Noirs. Il avait accordé une attention considérable au premier lors de son précédent séjour en Amérique, et durant son absence le sujet ne paraît pas avoir été entièrement négligé. À la réunion mensuelle de Philadelphie, qui eut lieu au premier mois de 1700, William Penn exposa sa préoccupation, qu'il leur dit occuper son esprit depuis longtemps, pour le bien et le bien-être des Indiens et des Noirs, exhortant instamment les amis à s'acquitter de leurs devoirs envers ces gens, plus particulièrement quant à l'amélioration de leur esprit. Il conseilla qu'ils puissent, aussi souvent que possible, bénéficier de l'avantage d'assister aux réunions religieuses et de recevoir une instruction sur les principes de la religion chrétienne. À la suite de cette communication, une réunion fut instituée spécialement pour les Noirs, devant se tenir une fois par mois. Des mesures furent également adoptées pour tenir des réunions plus fréquentes avec les Indiens, William Penn se chargeant de régler la manière et de se procurer des interprètes. Trois comtés du Bas se séparèrent de la province en 1691, et William Penn, alors retiré en raison des accusations de Fulé, fut amené à donner un assentiment à contre-cœur à cette séparation. Lorsque le gouvernement de la province et des territoires fut confié au colonel Fletcher, celui-ci les réunit, apparemment sans consulter leur choix à ce sujet. L'Assemblée législative, ainsi composée de membres de la province et des territoires, fut convoquée à Philadelphie au troisième mois de 1700. Au début de la session, William Penn leur fit savoir que, puisqu'il comprenait qu'il n'était pas satisfait de la charte accordée par son adjoint en 1696, il était prêt à leur en offrir une autre. Cette information fut donnée à l'ouverture de la session, dans le double but de prouver sa disposition à leur donner satisfaction et de laisser le temps de considérer le sujet avec réflexion. Son objet suivant fut d'assurer, par des actes législatifs, l'amélioration de la condition et du traitement des Noirs et des Indiens dans la province, ce qu'il s'était auparavant efforcé d'obtenir au sein de sa propre société religieuse. Dans cette perspective, il présenta peu après un projet de loi visant à réglementer les mœurs et les mariages des Noirs, et un autre sur la réglementation de leurs procès et châtiments, substituant le jugement de la loi à la volonté du maître. Un troisième fut également soumis à l'Assemblée pour prévenir les abus envers les Indiens. De ces projets de loi, il eut la mortification de voir le premier et le dernier rejetés, pour des raisons qui ne nous ont pas été transmises dans l'histoire de l'époque. On ne sait pas quelle proportion des membres de l'Assemblée appartenaient à la Société des Amis, mais le Conseil du gouverneur, composé entièrement d'amis, s'était uni à lui pour proposer ses projets de loi, et la réunion mensuelle de Philadelphie en avait approuvé le principe. Nous pouvons très raisonnablement conclure ici que ce rejet fut l'effet d'une influence étrangère à sa propre société. L'Assemblée, après une courte session, fut dissoute par le gouverneur. Tandis que l'Assemblée provinciale siégeait à Philadelphie, Penn était très occupé à en diriger les travaux, mais lorsqu'elle ajournait, il tournait généralement son attention vers les questions concernant les Indiens, qu'il considérait presque autant comme son propre peuple que les colons blancs. Lorsqu'il conclut son premier traité avec eux, il avait projeté de les réunir deux fois par an pour renouveler leur traité d'amitié, régler les questions de commerce qui auraient pu surgir et fumer avec le calumet de la paix. Son absence en Angleterre avait longtemps rendu ces réunions impossibles, mais il les reprit désormais et convoqua les chefs en conférence avec lui. Les tribus Delaware et Susquehanna, qui bénéficiaient désormais de son traitement équitable depuis près de 20 ans, étaient désireuses de voir Penn conclure des accords avec d'autres tribus, plus particulièrement celles qui vivaient dans la région le long du fleuve Potomac. Elles se rendirent donc auprès d'Ona, comme on appelait généralement Penn, et il accepta de rencontrer leurs alliés en avril 1700. À cette réunion vinrent le voir de nombreux Indiens de premier plan, trois rois et le frère de l'empereur des Cinq Nations, ainsi que 40 autres chefs. Avec tous, Penn conclut des traités de paix et de commerce, par lesquels les Indiens devaient être protégés de l'avidité et de la ruse des trafiquants blancs et devaient, de leur côté, vendre leurs fourrures et leurs peaux uniquement aux Pennsylvaniens. De cette manière, il réussit à garder les Peaux-Rouges amicaux envers les Blancs dans sa province et obtint le grand avantage d'avoir un rempart d'Indiens amis pour protéger sa colonie contre les ennemis. Lorsqu'il concluait l'un de ses traités, il en informait le gouvernement en Angleterre, augmentant ainsi sa réputation déjà bien méritée de savoir mieux traiter avec les Indiens que tout autre gouverneur d'une colonie anglaise. À Pensbury, la famille vivait à peu près comme une famille de haut rang en Angleterre. Les dames s'habillaient de soie et portaient des coiffes élaborées, des boucles et des ornements d'or. Penn lui-même acheta pas moins de 4 perruques en une seule année, pour un coût de près de 20 livres. Mais s'il se montrait indulge envers sa famille et lui-même, il veillait toujours sur les pauvres et les malades. Lorsqu'il apprenait que des hommes ou des femmes étaient en prison pour dette, il s'arrangeait pour les faire libérer et leur permettre de recommencer. Il était toujours prêt à écouter et à aider ceux qui venaient à lui dans quelque détresse que ce soit, et il versait des pensions de 3 shillings par semaine à de nombreuses personnes âgées qui n'étaient plus en mesure de subvenir à leurs besoins. Ses livres de caisse privée montrent une longue liste de dons généreux qui dépassent de très loin les sommes qu'il dépensait pour l'usage de son propre foyer. Outre sa barge sur la rivière, il avait un carrosse, une calèche et une chaise à porteur. Il aimait beaucoup les bons chevaux et en avait plusieurs dans ses écuries. Souvent cependant, il trouvait plus facile d'explorer les environs à pied qu'à cheval, et il aimait beaucoup faire de longues promenades dans les bois. Une fois, il se perdit sur une colline près de Valley Forge et erra quelque temps, jusqu'à ce qu'il parvienne à une autre hauteur d'où il aperçut la rivière Schuylkill. La première colline, il la nomma Mount Misery, et la seconde Mount Joy, et ses noms restèrent attachés aux collines pendant un certain temps. On raconte un agréable petit incident. Un jour, alors que William Penn se rendait à cheval à la maison de réunion Quaker d'Haverford à l'extérieur de Philadelphie, il rattrapa une petite fille pieds nus, Rebecca Wood, qui allait elle aussi à la réunion. Il la fit monter derrière lui sur le cheval, et tous deux poursuivirent jusqu'à la maison de réunion, les jambes nues de la fillette offrant un contraste étrange avec le grand gouverneur, dans son long manteau et sa culotte. William et Anna Penn recevaient continuellement dans leur maison de campagne, préférant Pensbury à la ville. La fille de Penn, Letitia cependant, qui avait 20 ans et était une jeune fille très vive et jolie, n'aimait pas autant le calme de la campagne et passait la plupart de son temps à Philadelphie chez les Morcom, les Logan ou les Shippen. Penn traitait toujours équitablement les Indiens et ils avaient en lui bien plus confiance qu'en la plupart des Blancs. Il voyagea à travers le New Jersey, New York et le Maryland, désireux de voir le pays et aussi de répandre l'influence Quake aussi largement qu'il le pouvait dans le Nouveau Monde. La vie d'un gentilhomme campagnard lui convenait parfaitement, et il était sans doute bien plus heureux en Pennsylvanie qu'il ne l'avait été quand il fréquentait la cour à Whitehall à Londres, ou qu'il s'efforçait de faire croire aux autres que le roi Jacques était aussi digne d'être roi que lui-même le pensait. Parmi les divertissements du gouverneur et de sa famille figurait la participation occasionnelle à une foire indienne, où Quantico, à propos de quoi son livre de caisse, tenu par James Logan, contient les écritures suivantes. Par ma maîtresse à la foire, livre 208 par dépense donné à Anna Carpentier pour un achat de foire, livre 080 par idem à deux enfants pour des dragées sur ordre, livre 016 par le gouverneur allant au Quantico, livre 1018 lorsqu'il rendait visite aux Indiens, William Penn, dans l'élan de sympathie de son cœur, s'efforçait toujours de les rendre aussi innocemment heureux que possible, et il constatait que rien ne réussissait mieux que de prendre part à tout ce qui se passait parmi eux, par exemple en partageant de bon cœur leur venaison, leur romney ou leur gland rôti, tout ce qui se trouvait à portée de main. Et lorsqu'ils se levaient pour éprouver leur force et leur adresse dans les jeux athlétiques auxquels ils étaient habitués, ils se joignaient à eux, et l'on dit que, dans ses jeunes années, il était tout à fait de taille à rivaliser avec n'importe lequel d'entre eux, et qu'il se livrait à ses exercices avec grand entrain et enjouement. Isaac Norrie, homme riche et influent dans la colonie, remarque dans une lettre de famille « La femme et la fille du gouverneur vont bien. Leur petit-fils est un charmant bébé. Sa femme est extrêmement aimée ici, exemplaire dans sa condition, et d'un excellent esprit, qui ajoute de l'éclat à son caractère, et elle tient une grande place dans le cœur des braves gens. » Le gouverneur est notre pâté patrice et sa valeur n'est pas chose nouvelle pour nous. Nous l'estimons beaucoup et espérons que sa vie sera préservée jusqu'à ce que les affaires actuellement à l'ordre du jour soient réglées pour sa paix et son confort, ainsi que pour le bien-être et la tranquillité du peuple. Pourtant, le gouvernement de Pennsylvanie ne fonctionnait pas sans heurts, même pendant que Penn s'y trouvait. Les Quakes et les Anglicans se crêlaient constamment et l'Assemblée ne votait pas les lois que Penn estimait nécessaires. Il ne gagnait pas d'argent avec sa province, il devait toujours payer de gros traitements et on lui demandait sans cesse de l'argent pour diverses fins. Un jour, il déclara que la province lui avait coûté une perte de 20 000 livres. Cela se compare à la somme de 16 000 livres que le roi devait au père de Penn et pour laquelle la Pennsylvanie avait été donnée à Penn. Il perdait de l'argent à grande échelle. Il recevait parfois des paiements provenant de la vente de terres ou des loyers, mais les colons étaient des gens difficiles à traiter et payaient leur argent à contre-cœur. Les limites de la Pennsylvanie étaient encore très indéfinies et, pour l'essentiel, ne furent fixées que des années plus tard. On disait que la province était bornée au nord par les limites méridionales de New York et au sud par les limites septentrionales du Maryland. Aucune de ces frontières ne fut réellement arrêtée avant 1768. Vers l'ouest, la frontière était encore plus vague, définie par les mots « aussi loin vers l'ouest que s'étend le Maryland ». Mais les frontières n'avaient pas alors une grande importance, tant il y avait de terres vacantes, bien que, dès 1702, un grand nombre d'Allemands, de Suisses, de Huguenots et de Scotch-Irish entraient dans la province et prenaient des terres à l'ouest et au nord de la petite implantation Quake sur le Delaware. L'Assemblée de Pennsylvanie refusa d'accorder certains subsides demandés par le roi Guillaume en 1701. Pendant le temps que William Penn avait passé en Amérique, il s'était appliqué avec ardeur aux affaires du gouvernement, s'efforçant de remédier au désordre qui s'était glissé dans la province, préférant toujours le bien du pays et de ses habitants à son propre intérêt privé, remettant plutôt qu'exigeant strictement ses revenus légitimes, de sorte que sous son administration paternelle, les habitants de la province avançaient dans la prospérité et accumulaient les nécessités et les commodités de la vie. Mais l'ambition des dirigeants et les intrigues de leurs ennemis soulevèrent une autre tempête, qui, en peu de temps, sépara William Penn à jamais de sa province. La richesse et la population croissante des colonies américaines commençaient dès lors à exciter la jalousie du gouvernement du pays, et il semble que le projet ait été formé peu après la Révolution d'acheter la propriété des plus importantes, sinon de toutes, et de remettre leur gouvernement à la couronne. Un projet de loi était alors effectivement devant la Chambre des Lords, visant à transformer les gouvernements coloniaux en gouvernements royaux. Le prétexte de cette prise de pouvoir projetée était, d'une part, l'avantage national qu'on en tirerait, et d'autre part, les abus prétendument existants parmi elles. les amis de William Penn et d'autres intéressés aux affaires de la Pennsylvanie représentèrent au Parlement la dureté de son cas et sollicitèrent la suspension des procédures jusqu'à ce qu'il puisse revenir et répondre lui-même. Des lettres lui furent également expédiées, l'informant des mesures en cours et pressant son retour immédiat. Aussi pénible que fût la perspective d'abandonner la colonie où il avait indubitablement espéré passer le soir de sa vie, il ne semblait y avoir aucune alternative. L'expérience qu'il avait tentée est maintenir un gouvernement sur des principes chrétiens et faire servir l'établissement du pays à la civilisation des habitants originels risquait d'être totalement anéanti. Un gouvernement militaire pouvait raisonnablement être attendu si le projet de loi en question venait à être adopté. Et très probablement les luttes barbares avec les autochtones qui marquèrent les premières implantations en Virginie et en Nouvelle-Angleterre se renouvelleraient sur les rives du Delaware. Ayant décidé d'un voyage en Europe, William Penn convoqua de nouveau l'Assemblée à Philadelphie, à qui, le 15 du septième mois, il prononça une allocution dans laquelle il dit « Je ne puis songer à un tel voyage sans une grande réflexion de l'esprit, m'étant promis la tranquillité d'une solitude, et que je pourrais demeurer au moins assez longtemps parmi vous pour rendre tout le monde pleinement rassuré et en sécurité. Car mon cœur est parmi vous autant que mon corps, quoique certaines personnes veuillent en penser, et aucune rudesse ni déception ne pourra, en me soumettant à la providence de Dieu, jamais altérer mon amour pour ce pays et ma résolution d'y revenir pour y établir ma famille et ma postérité, mais ayant des raisons de croire que je puis en ce temps vous servir au mieux, ainsi que moi-même de l'autre côté de l'eau, ni la rigueur de la saison ni la situation délicate de ma famille ne peuvent contrarier mon inclination à l'entreprendre. Pensez donc, puisque tous les hommes sont mortels, à quelques expédients et dispositions convenables pour votre sûreté, tant pour vos privilèges que pour vos biens, et vous me trouverez prêt à consentir à tout ce qui pourra nous rendre heureux par une union plus étroite de nos intérêts. Revoyez encore vos lois, proposez-en de nouvelles qui puissent améliorer votre situation, et ce que vous ferez, faites-le promptement, vous souvenant que le Parlement siège à la fin du mois prochain, et que plus tôt j'y serai, plus en sécurité, je l'espère, nous serons ici. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail des travaux de cette Assemblée. Qu'il suffise d'observer que les jalousies des comtés inférieurs reparurent, mais furent si bien apaisées par la douceur et la fermeté du gouverneur que les membres consentirent à agir avec ceux de la province dans le règlement des affaires pour lesquelles ils avaient été convoqués. La charte des privilèges fut achevée et signée, à la satisfaction générale des parties concernées. La nouvelle que William Penn allait bientôt partir pour l'Angleterre amena un certain nombre d'Indiens à lui rendre visite. Certaines de ces visites furent reçues à Pensbury, probablement avant la réunion de l'Assemblée, et au moins une à Philadelphie pendant la session. John Richardson, qui se trouvait alors en Pennsylvanie pour une visite religieuse, nous a laissé un bref récit d'un entretien entre William Penn et les Indiens à Pensbury. La conférence se déroula avec une grande sobriété et une grande décence. L'un des chefs, parlant de leurs alliances qu'ils renouvelaient alors, leur dit qu'ils ne rompaient jamais les premiers leurs alliances avec aucun peuple, car frappant sa main sur sa tête, il dit qu'il ne les faisait pas là, mais frappant sa main sur sa poitrine, il dit qu'il les faisait là. Une fois les affaires convenables terminées, William Penn leur offrit quelques pièces de vêtements et, avant qu'ils ne le quittent, les assura que si des différends survenaient entre eux et certains de ces gens, cela ne devait pas être une cause de guerre, car la justice serait rendue en de tels cas, et que des animosités pourraient ainsi être empêchées pour toujours des deux côtés. De la visite faite pendant la session de l'Assemblée, on sait désormais bien peu de choses, bien que l'entretien ait été dit très intéressant. Il semble qu'il ait eu lieu en présence du Conseil. William Penn leur dit que l'Assemblée était alors en train d'adopter une loi, conformément aux souhaits des Indiens, pour empêcher qu'ils ne soient abusés par la vente de rhum parmi eux. Et il leur demanda d'unir tous leurs efforts à ceux du gouvernement afin d'en assurer la bonne exécution. Observant en même temps que ce serait probablement son dernier entretien avec eux, du moins jusqu'à son retour, il les assura qu'il les avait toujours aimés et avait été bon pour eux, et qu'il continuerait toujours à l'être, non par politique pour favoriser son propre intérêt, mais par réelle affection. Et il leur demanda pendant son absence de cultiver l'amitié avec ce qu'il laisserait investi de l'autorité, car il continuerait toujours, dans une certaine mesure, leur amitié à leur égard comme il l'avait toujours fait. Enfin, il leur dit qu'il avait donné instruction aux membres du Conseil, et il répéta alors l'instruction, d'être en tout point bon pour eux et de les recevoir avec toute courtoisie et toute démonstration de bienveillance, comme il l'avait toujours fait. Les membres promirent alors qu'ils observeraient fidèlement cette instruction. On fit ensuite quelques présents aux Indiens, après quoi ils se retirèrent. Les préparatifs du voyage étant faits, et le navire presque prêt à pareiller, il nomma un Conseil d'État composé de 10 personnes, dont Thomas Story. Il présenta également aux citoyens de Philadelphie une charte la constituant en ville, avec les pouvoirs nécessaires à son gouvernement, et enfin il nomma Andrew Hamilton, qui avait été quelque temps gouverneur du New Jersey de l'État de l'Ouest, son gouverneur adjoint pour la province et les territoires. Il s'attendait à ce que sa visite en Angleterre ne dure que peu de temps, et il projetait de retourner à Pensbury au bout d'un an. Il voulait y établir sa demeure et s'attendait à ce que sa femme et Letitia y restent jusqu'à son retour, mais sa famille envisageait autrement l'idée d'être laissée derrière. Penn écrivit à James Logan, « Je ne peux pas décider ma femme à rester, encore moins Tish, je ne sais que faire. » Et dans une autre lettre, il écrivit, « Le départ de ma femme et de Tish augmentera grandement la dépense, plus encore la vie à Londres que la traversée, mais elles ne se laisseront pas refuser. » Madame Penn et Letitia avaient probablement le mal du pays pour leur Angleterre natale. Letitia, en particulier, regrettait ses amis mondains restés au pays et trouvait les Quakers de la province un bien médiocre substitut. Il se trouva que plus tard, lorsqu'elle retourna en Angleterre, elle abandonna la foi Quaker et devint membre de l'Église d'Angleterre. Madame Penn, outre d'autres raisons de rentrer au pays, avait déjà constaté que son mari avait besoin de l'aide de sa volonté ferme et de sa clairvoyance lorsqu'il était assailli de difficultés politiques en Angleterre, et elle croyait pouvoir lui être d'un grand secours. Ainsi, lorsque Penn rentra, il emmena sa famille avec lui. Il nomma Andrew Hamilton gouverneur adjoint de la province et James Logan secrétaire, et le 4 novembre 1701, il appareilla de Philadelphie sur le navire d'Almao. Depuis le bord du navire, il écrivit à James Logan, « Je vous ai laissé une confiance peu commune, avec une dépendance singulière à votre justice et à votre soin. Employez tous vos efforts à recevoir tout ce qui m'est dû. Acquittez tous mes billets et ordres sur vous, réglez mes comptes, acquittez toutes mes dettes honorablement mais avec prudence, établissez des rôles de loyer, dressez une estimation de mon domaine et de ce qu'on peut en tirer, et envoyez-la moi au plus vite, car cela peut m'être de grande utilité. Donnez ma chère affection à tous mes amis, que je prie de s'employer à adoucir les esprits irrités et à les ramener au sentiment de leur devoir. Le navire fit une traversée très rapide, en fait l'un des voyages les plus rapides enregistrés à l'époque, ne mettant que 36 jours pour traverser, et à la mi-décembre, Penn était de nouveau à Londres. Il prit des appartements à Kensington afin d'être près du roi et du Parlement pour défendre son titre sur sa province. Il se trouva que Penn ne retourna jamais en Pennsylvanie, bien que certains de ses enfants l'aient fait. La politique allait monopoliser toute son attention, il ne connaîtrait plus la vie campagnarde en Amérique dont il s'était tant épris. Chapitre XIV à la cour, et en prison Penn avait encore de nombreux amis à la cour, et c'est sans doute en grande partie grâce à leurs efforts qu'il réussit à faire retirer du Parlement le projet de loi visant à lui enlever la Pennsylvanie. Il y avait cependant plusieurs hommes, en vue au gouvernement, qui pensaient qu'aucune des colonies américaines ne devait appartenir à des particuliers, mais que toutes devaient dépendre directement de la couronne, et ces hommes proposèrent bientôt un autre projet de loi très semblable au précédent. Pour le faire échouer, Penn et Lord Baltimore firent cause commune et cessèrent de se créler au sujet de la frontière entre la Pennsylvanie et le Maryland. Quelques jours après la présentation de ce projet de loi au Parlement, toutefois, le roi Guillaume mourut des suites de blessures résultant d'une chute de cheval. Le roi avait été influent pour pousser au changement de gouvernement dans la province de Penn, mais sa successeur, la reine Anne, arrivée au pouvoir en 1702, était beaucoup plus favorable à Penn. L'affaire fut donc abandonnée. Bien que fille de James Stuart, la reine Anne était protestante et avait épousé un protestant, le prince George de Denmark. Elle se montrait libérale envers toutes les religions, et peu après son accession au trône, les Quakers demandèrent à Penn de lui présenter une adresse la remerciant de la tolérance envers toutes les sectes qu'elle avait promis d'observer. Penn eut l'adresse. La reine Anne répondit ensuite avec assez de grâce, « Monsieur Penn, je suis si contente que ce que j'ai dit vous satisfasse, que vous et vos amis pouvez être assurés de ma protection, et j'espère sincèrement votre bien-être et votre bonheur. » Elle tint parole au Quaker et se révéla aussi l'amie constante de Penn. Elle l'avait beaucoup vu à la cour lorsque son père était roi et connaissait l'ancienne amitié entre son père et le chef Quaker. Ainsi, Penn redevint en quelque sorte un courtisan et occupa une place en vue assez semblable à celle qu'il avait tenue avant l'avènement de Guillaume. Il passa une grande partie de son temps à Londres, où il comptait désormais des amis tant chez les Whigs que chez les Tories. Les principaux hommes d'État avaient une si haute opinion de ses capacités qu'ils lui demandaient souvent d'arranger des affaires politiques et personnelles nécessitant du tact et des talents diplomatiques. Il tenta parfois de mettre ses qualités à profit par correspondance avec les législateurs de Pennsylvanie, et l'un de ses derniers efforts fut en faveur des esclaves noirs de la province. En 1692, il avait essayé d'obtenir justice pour ces gens, mais en vain. À présent, il sentait plus fortement que jamais qu'il était mauvais d'importer des Noirs dans le nouveau pays comme esclaves. Il travailla à cet objectif jusqu'à amener l'Assemblée coloniale à tenter de décourager ce commerce en imposant un droit sur l'importation d'esclaves. En 1711, ils interdirent à l'avenir une telle importation, mais à peine la nouvelle de cette bonne loi fut-elle parvenue en Angleterre que le gouvernement, malgré les efforts de Penn, annula l'acte de Pennsylvanie. Pourtant, les hommes d'État les plus sages d'Angleterre comprirent que Penn avait raison et que la ligne de conduite qu'il pressait sa colonie d'adopter, non seulement concernant l'esclavage des Noirs, mais dans toutes les questions touchant à la liberté et à l'éclairage de l'esprit humain, était la meilleure à suivre pour le Nouveau Monde. Parmi les enfants que Penn eut de sa première épouse, la vive Letitia épousa William Aubrey, qui était dur et autoritaire envers son beau-père et tyrannique envers elle. Son fils William s'était marié, mais était devenu très débauché pendant la visite de son père en Pennsylvanie et était désormais la brebis galeuse de la famille. Il avait contracté beaucoup de dettes et risquait d'être jeté en prison, si bien que Penn décida qu'il serait mieux en Pennsylvanie et l'envoya à Pensbury. On devait l'encourager à mener une vie saine au grand air et à avoir des chevaux et des chiens pour chasser le renard, le cerf et le loup. Le fils partit pour Pensbury, et James Logan essaya de le surveiller d'un œil vigilant et restrictif, mais il parvint à s'attirer presque autant d'ennuis là-bas qu'à Londres, malgré tous les efforts pour le maintenir dans le droit chemin. Un grand changement s'était produit en Angleterre depuis l'époque où les Stuarts étaient souverains. Les anciennes lois brutales avaient été en grande partie abolies, et il y avait beaucoup moins de cruauté et de violence. À la place du dissolu Charles et du perfide Jacques, les dirigeants étaient honorables et vertueux. Il n'y avait plus de rumeurs constantes de complots et de conspirations, et toutes les religions étaient traitées équitablement. William Penn constata qu'on n'avait plus besoin de lui pour secourir quelques pauvres Quakers tombés en disgrâce auprès des agents de la loi. Désormais, ses difficultés étaient surtout celles liées à l'effort pour fournir un gouvernement convenable à sa province et en tirer assez d'argent pour couvrir les dépenses. Avant que Penn ne quitte la Pennsylvanie, l'Assemblée y avait voté de lui verser 2 000 livres, mais cette somme fut bientôt dépensée, et les colons, si économes, ne souhaitaient pas lui donner davantage. Encore et encore, il écrivit à James Logan au sujet de ses difficultés financières pour administrer la Pennsylvanie. Dans une lettre, il dit « Jamais pauvre homme eut ma tâche, sans homme ni argent pour m'assister. Je te charge donc strictement de représenter aux amis là-bas que je suis forcé d'emprunter de l'argent et d'ajouter dette à dette au lieu de les payer. Fais un envoi en toute hâte ou je suis perdu. » Il essaya bien des moyens pour que sa province lui rapporte quelque chose en retour du travail et de l'argent qu'il y avait déjà consacré. Il pressa Logan d'acheter et de lui envoyer autant de fourrures qu'il pourrait en obtenir, sachant qu'elles se vendraient à bon prix en Angleterre. À un moment, il songea à vendre son gouvernement directement à la couronne anglaise pour une somme suffisante afin de régler toutes ses dettes. Il y eut de longues tractations sur le prix et la vente ne se fit jamais. Pendant ce temps, son fils William s'attirait encore des ennuis à Pensbury et à Philadelphie. Une nuit, lui et un compagnon débauché se mirent à battre la garde de nuit. Il reçut une correction et fut ensuite traité comme un émeutier ordinaire. On lui avait donné un manoir dans l'espoir qu'il s'en occuperait, mais au lieu de cela il le vendit et dilapida tout l'argent. Enfin, Penn le fit rappeler, et lorsque William le Jeune parvint finalement en Angleterre, il reprit son ancien train de vie et contracta de nouvelles dettes, au détriment de son parent déjà appauvri et indulge. Penn estima avoir perdu 30 000 livres à cause de sa province. « Au Pennsylvanie, écrivit-il, que m'as-tu coûté ? Plus de 30 000 livres, au-delà de tout ce que j'en ai jamais tiré, deux voyages hasardeux et des plus fatigants, mes gênes et ma servitude ici, et presque l'âme de mon enfant. » Bref, il faut que je vende tout où je suis ruiné et disgracié par-dessus le marché. Pendant ce temps, aucun fonds n'arrivait au gouverneur pour lui permettre de conduire le procès coûteux résultant de la menace d'annexion de la province. Il écrit à Logan, 12 mois 1702. « Je vous charge strictement de dire aux amis que je suis forcé d'emprunter de l'argent, ajoutant dette à dette pour conférences, avis d'avocat, audience, etc., avec les frais correspondants. Les Guinées fondent 4, 5, 6 par semaine et parfois autant par jour. L'annexion eût été de toute chose celle que les colons redoutaient le plus, car dans ce cas leurs lois coloniales auraient été menacées. Pourtant, ils ne pouvaient être amenés à envoyer à leur gouverneur des subsides convenables pour y résister. 8 mois plus tard, il écrit encore « Je n'ai jamais été aussi réduit, car l'Irlande, mon ancien principal verbe, n'a presque pas d'argent. L'Angleterre est dure envers elle. » Aucun commerce n'est autorisé ici sauf le beurre et la viande vers les Flandres et les Antilles, et à la merci de l'Angleterre pour les prix, de sorte que nous devons aller et manger la moitié de nos loyers, ou nous ne pouvons en jouir. L'homme qui faisait alors office de gouverneur adjoint de Pennsylvanie se révélait une mauvaise solution de fortune, et la situation dans la province semblait aller de mal en pis. L'opposition à Penn lui-même augmentait aussi, et bientôt l'Assemblée adopta une série de résolutions qui lui furent envoyées à Londres. Ces résolutions formulaient de nombreuses plaintes contre son gouvernement de la province, l'accusant de s'être rangé du côté des ennemis de la colonie, d'avoir extorqué de l'argent aux colons lors de la vente des terres, de n'avoir pas payé le salaire d'un ancien gouverneur, et se terminait en déclarant qu'il fallait faire quelque chose pour réprimer l'anarchie dans la province. Lorsqu'on sut que l'Assemblée avait envoyé une telle note à Penn, les colons s'élevèrent aussitôt contre le caractère offensant de son ton. Des ordres furent donnés pour rappeler les résolutions, et, dans une tentative de remettre les choses d'aplomb, l'Assemblée vota 1200 livres pour soutenir le gouvernement de Penn. Tout aurait pu désormais aller sans heurts si le gouverneur adjoint, John Evans, n'avait tenté d'effrayer les Quakers par un tour stupide. Il souhaitait créer une milice pour la province, mais les Quakers s'y étaient opposés. Ainsi, le jour de la foire annuelle, Evans fit en sorte qu'un messager arrive à cheval à Philadelphie, apportant la nouvelle sensationnelle qu'une troupe de soldats français avait été vue sur le Delaware, se dirigeant vers Philadelphie. Alors Evans boucla son épée et parcourut la ville à cheval, exhortant les gens à s'armer et à défendre leur province. Il y eut une brève alarme, pendant laquelle les plus grands navires du Delaware furent hâtivement remontés sur la rivière, tandis que les plus petites embarcations étaient dissimulées dans des ruisseaux. On cacha l'argenterie et les objets de valeur, mais seuls 4 hommes se rendirent au lieu de rassemblement fixé par Evans pour s'enrôler comme miliciens. Lorsqu'on découvrit comment Evans avait tenté de les duper, les colons furent fort indignés et envoyèrent une plainte à Penn en Angleterre. Penn apprit aussi que son ami et secrétaire James Logan faisait l'objet de nombreuses critiques. Quelques hommes en qui Penn avait confiance, comme James Logan, étaient pleinement dignes de cette confiance, mais il y en avait beaucoup qui ne l'étaient pas. Parmi ces derniers se trouvait un homme nommé Philip Ford, un Quaker, qui, depuis quelque temps, agissait comme intendant des domaines de Penn en Angleterre et en Irlande. Penn s'attacha beaucoup à Ford, comme il s'était beaucoup attaché à James Stuart, et finit par lui faire présent de 10 000 acres en Pennsylvanie, d'un lot en ville à Philadelphie et de 150 acres dans les faubourgs. La Pennsylvanie rencontra une autre grande épreuve au soir de sa vie, du fait de la duplicité de ses agents les Ford. Il faisait la plus entière confiance à Philip Ford, approuvant ses comptes sans les examiner. Pendant 20 ans, il ne soupçonna rien jusqu'à la catastrophe finale. À la mort de Ford, sa veuve et son fils Philip Forgière présentèrent un compte contre William Penn, le montrant débiteur en verse de 14 000 livres. William Penn contesta cet état, et tous les intéressés étant Quakers, il se prépara aussitôt à soumettre le tout à un corps d'arbitres Quakers pour examen et décision. Les Ford repoussèrent cette voie, sachant bien que l'affaire ne résisterait pas à une telle épreuve. Mais vu la manière habile dont l'affaire avait été conduite, ils s'attendaient à ce que la loi serve mieux leur dessein. À une période des difficultés occasionnées par ses dépenses pour la Pennsylvanie, William Penn, à l'insu de ses amis, avait emprunté de 1800 livres à Philip Ford, en lui donnant en garantie un titre sur la province. Quand, plus tard, il resta entre les mains de Ford, sur les revenus des domaines anglais et irlandais, de quoi rembourser la dette, Penn, ne doutant nullement de l'usage fidèle qui en serait fait, ne s'occupa pas de son obligation. Pendant ce temps, Ford calcula sur la dette un intérêt énorme et des intérêts composés, avec des frais exorbitants pour chaque démarche s'y rapportant, tandis qu'aucune attention n'était portée à l'argent laissé entre ses mains, jusqu'à ce qu'à sa mort la dette fût présentée comme s'élevant à 14 000 livres. La tromperie pratiquée par cet indigne confide peut être en partie évaluée par le fait qu'il reçut 17 000 livres de l'argent de William Penn, n'en déboursa pour son compte que 16 000, et pourtant mit son employeur en dette de 12 000 livres au titre des intérêts et services. Un examen attentif, avec les preuves documentaires que William Penn put produire dans la propre écriture de Ford, montra clairement que, loin de devoir cette somme à Ford, c'était Ford qui lui devait 1659 livres. Malgré tout cela, l'obligation tenait juridiquement contre lui, avec d'énormes accroissements, et rien de moins que le dernier denier ne satisferait l'effort. Cependant, on trouva que ce n'était qu'environ la moitié de ce qui était réclamé. Pour non-paiement de l'un des plus petits éléments de leur demande, ils firent délivrer un mandat contre William Penn, que les huissiers reçurent l'ordre d'exécuter un jour où ils seraient assis à la réunion de Gracechur Street. Ils auraient exécuté ces instructions sans l'intervention de Henry Goldney et Herbert Springett, qui promirent qu'ils seraient à leur disposition dans quelques heures. Les amis de Penn lui conseillèrent de ne pas payer la réclamation, mais d'aller plutôt en prison, et il fut en conséquence incarcéré à la prison de la Flite. Son cas suscita la plus vive sympathie de la part de ses corligionnaires, qu'ils manifestèrent de toutes les manières en leur pouvoir. Beaucoup de ses amis, les plus chers, lui rendirent visite à plusieurs reprises à la prison de la Flite et y tinrent souvent leurs réunions religieuses avec lui. James Logan, écrivant à Thomas Calhoun, pair de Hannah Penn, en date du 13 du 6e mois 1706, parle ainsi des circonstances qui conduisirent à l'emprisonnement de son gendre. Jamais personne ne fut traité plus barbare, ni harcelé par des ennemis immérités. Il a su déjouer toutes les attaques des adversaires publics, mais il a eu la fortune de subir les plus grandes rigueurs de la part de ceux qui lui doivent le plus. Il faut avouer qu'une partie de cela vient de sa facilité et de son manque de prudence. Pour autant que je puisse en juger, les desseins de Philippe Fort étaient vils et barbares dès le commencement. Et ce dont un vieil homme rusé et intéressé, avec de telles intentions, pouvait être capable, lorsqu'il avait affaire à tant de bonté, d'ouverture de cœur et de confiance en son honnêteté, n'est pas difficile à imaginer. Dans la réponse de Thomas Calhoun, il dit « J'ai vu leurs comptes établis sous leurs deux signatures, celle de William Penn et celle de Philippe Fort, où par sa facilité et son manque de prudence, comme vous l'observez, il a donné aux misérables des occasions de ces extorsions viles, barbares et méchantes, et qui, si elles avaient été corrigées à temps, n'auraient pas atteint le dixième de ce qu'elles sont aujourd'hui. Le peu que j'en sais me trouble, mais j'ai cette consolation que, quoique leur affaire paraisse si grande et si éprouvante, ni lui ni ma fille n'y succombent, mais reçoivent de la puissance divine un soutien pour leur esprit. Je prie Dieu que cela tourne à leur bien et soit une instruction pour leur postérité. » À cette occasion, William Penn demeura 9 mois prisonnier à la Flite. Ses amis s'étaient employés et à ce moment-là, avaient réuni la somme de 7 500 livres pour payer la mère, la fille et le fils de Philippe Fort, plutôt que de laisser leur ami incarcéré plus longtemps. Ceux qui avancèrent l'argent reçurent les garanties nécessaires sur la Pennsylvanie pour en être remboursés. L'excellent et fidèle biographe américain de Penn parle de cette période en ces termes. « Tout au long de cette affaire vexatoire et humiliante, il manifesta la patience et la fermeté du vrai chrétien, dont les affections ne sont pas fixées sur les choses terrestres mais sur les choses célestes. Et la belle remarque d'Isaac Norris semblait s'appliquer à lui, « Dieu assombrit ce monde pour nous, afin que nos yeux puissent contempler l'éclat plus grand de son royaume. » Il est vrai, en effet, que le monde ne paraissait plus lumineux à William Penn. Pourtant, ses lettres montrent amplement que, toujours et encore, il s'élevait au-dessus de ces nuages vers une région d'amour et de paix divin. Mais Penn restait accablé de grandes difficultés pécuniaires et était voué à les ressentir tant qu'il aurait des dettes impayées, et les retours limités de sa propriété américaine l'empêchaient de les acquitter promptement. Avec son gendre, William Aubrey, il avait affaire à un homme piquant et dur, dont le caractère n'était pas de nature à alléger ce que son beau-père avait à supporter, ne fût-ce que par le sentiment de lui devoir quelque chose. La publication de la correspondance de Logan a mis au grand jour toutes ses épreuves et difficultés, et elle nous montre très clairement que, jusqu'à la fin, sa carrière eut de nombreuses choses à combattre, mais qu'à travers tout cela, le sentiment soutenant d'un appui divin l'accompagnait. En Pennsylvanie, il avait de nombreux amis dévoués, conscients de ce que la province devait à son fondateur. Tel était, sauf 2 ou 3 exceptions singulières, le sentiment qui existait parmi les membres de sa propre société. Mais dès le début, les Quakers souhaitaient éviter tout ce qui pourrait paraître, aux autres colons, fait dans un esprit partisan ou comme s'appropriant trop la conduite des affaires publiques. Les habitants de la province étaient environ pour moitié Quakers, et pourtant ils n'avaient pas été dans leur désir d'être représentés dans cette proportion à la Chambre d'Assemblée. Mais dans une large mesure, les représentants de l'autre camp étaient prompts à se battre pour obtenir tout ce qu'ils pouvaient pour eux-mêmes et contre les subsides nécessaires du gouverneur. C'est ce qui conduisit à ces perplexités et à ces embarras. Enfin, la partie la plus notable des exceptions ci-dessus mentionnées fut George Keith et David Lloyd. Le premier renonça finalement aux doctrines Quakers et se retira de la société. Le second était un homme de capacité, mais il était déraisonnablement enclin à la critique. Il se joignit pendant de nombreuses années à l'opposition dans l'Assemblée provinciale, et par ses lettres en Angleterre, fit pendant un temps un mal réel au gouvernement de Pennsylvanie. Les colons finirent par s'irriter et avoir honte de l'état de choses existant, et déterminèrent de renvoyer ceux qui agiraient autrement envers le propriétaire. La conséquence fut, comme nous le dit Janet, qu'à l'élection de 1710, pas un seul membre ne fut élu qui ne fut un ami du fondateur de la province. Il dit, « Par l'élection de la nouvelle assemblée, l'harmonie fut rétablie dans le gouvernement, et toutes ses branches se distinguèrent par une application assidue et fructueuse aux affaires. Les dépenses de l'État furent fournies de bon cœur, la voix de la plainte se tut, tandis que les multiples bénédictions dont jouissaient les habitants furent franchement reconnues. En l'année 1712, l'ascendant des amis dans l'Assemblée est indiqué par l'adoption d'une loi visant à empêcher l'importation de nègres esclaves dans la province. Il est agréable de penser que, durant les trois dernières années de la participation de William Penn aux affaires coloniales, l'harmonie régna dans le gouvernement de sa province et qu'une loi si conforme à ses sentiments et à ses principes fut alors adoptée, bien que plus tard opposée par la couronne britannique. Cela confère ainsi à la Pennsylvanie l'honorable distinction d'avoir ouvert la voie à un système de législation plus humain sur la question de l'esclavage. Pendant ce temps, alors qu'il était encore en prison, son lieutenant-gouverneur Evans se comportait si mal que les habitants de la province décidèrent qu'ils ne le supporteraient plus. Penn, qui avait autrefois éprouvé une vive amitié pour cet homme, aurait toléré de sa part presque n'importe quelle injustice. Toutefois, trois Quakers en vue se rendirent auprès de lui à la prison de la Fleet et lui dirent que, s'il ne relevait pas Evans de ses fonctions de gouverneur, le peuple en appellerait à la reine Anne pour trancher l'affaire. Cela pourrait aboutir à ce qu'on lui retire la province, aussi, à contre-cœur, Penn accepta de destituer Evans. Même alors, il avait une telle affection pour Evans qu'il ne voulut pas lui faire savoir qu'il désapprouvait sa conduite. Il écrivit à James Logan, lui demandant d'expliquer l'affaire à son lieutenant-gouverneur, et dit « Je vous prie de lui annoncer cela avec ménagement, et de lui dire que la raison pour laquelle j'ai choisi de changer, plutôt que de contester ses plaintes devant la reine en conseil, est qu'il sera d'autant plus en mesure d'obtenir un emploi ailleurs. » Ce qui serait fort douteux si ses tâches étaient aggravées en une telle présence. À la place d'Evans, Penn envoya comme nouveau gouverneur un autre de ses amis, le colonel Charles Gookin. Il adressa aux habitants de Philadelphie des descriptions très flatteuses de ce nouveau gouverneur. Chapitre XV. Les œuvres de Penn achevées. Lorsque Penn quitta la prison de la Fleet, il se rendit dans sa maison de Brantford, à 9 milles de Londres, et y demeura quelque temps, après quoi il s'installa avec sa famille dans une propriété de campagne des collines du Berkshire appelée Ruscombe. Pendant qu'il s'y trouvait, il poursuivit ses efforts pour vendre la Pennsylvanie à la couronne anglaise et, comme cette affaire traînait en longueur sans grand résultat, il s'employa de son mieux à remettre en ordre le gouvernement embrouillé de sa colonie en envoyant de longues lettres à James Logan et à d'autres officiers de Philadelphie. Au premier temps, la province avait été pour lui une grande joie, mais à présent elle ne lui semblait plus qu'une source continuelle de malentendus et de dettes. Il sentait que, si la colonie avait pu profiter à d'autres, elle s'était révélée pour lui-même un fardeau presque ingrat. Il écrivit à certains colons exactement ce qu'il éprouvait à l'égard de la Pennsylvanie. « Les nombreux combats dans lesquels je me suis engagé, dit-il, les grandes peines et les dépenses incroyables consenties pour votre bien-être et votre tranquillité, au détriment de mon ancien patrimoine, dont quoi qu'on puisse en dire là-bas je ressens trop sensiblement les effets, jointe à l'opposition imméritée que j'y ai rencontrée, me plonge dans une tristesse qui, si une main supérieure ne m'avait soutenue, m'aurait depuis longtemps accablée. Et je ne puis m'empêcher de trouver dur qu'alors que cette terre s'est montrée un pays de liberté et de prospérité, elle devienne pour moi, par les moyens duquel elle a principalement été faite un pays, la cause de chagrin, de tourments et de pauvreté. Bien que la couronne anglaise fût désireuse de prendre en main la province de Pennsylvanie, de nombreux obstacles empêchaient de parvenir à un accord avec Penn. Certains de ces obstacles, il finit par les aplanir. Par exemple, il consentit à ce que lui et sa famille ne possèdent que 100 000 acres en pleine propriété, au lieu de l'ensemble des droits immobiliers qui lui avaient été accordés par la charte originale. Il insista pour qu'il n'y ait aucune institution officielle de l'Église d'Angleterre en Pennsylvanie, qu'aucun argent public ne soit employé au profit d'une secte plutôt que d'une autre, et que les charges publiques soient ouvertes à tous les colons. Après bien des controverses, le gouvernement anglais rédigea une nouvelle charte ou constitution, calquée sur celle de New York et du New Jersey, à ceci près qu'il n'y était absolument rien dit de l'établissement de l'Église d'Angleterre, tandis que la question du droit de vote dans les affaires publiques était laissée à la décision du peuple lui-même. Astérisque, le nombre exact n'a pas pu être scanné ou déterminé visuellement. Il y avait 6 emplacements où des chiffres pouvaient apparaître. En 1710, les dispositions visant à retirer la Pennsylvanie à Penn étaient à peu près achevées. 3 ans auparavant, James Logan avait écrit à William Penn « C'est le levain même de George Keith, laissé parmi le peuple lors de sa séparation, et qui fermente de nouveau, et ses démarches sont contraires à l'esprit des amis honnêtes. » Les dépêches parvenues à William Penn par l'entremise de James Logan, ou par d'autres voies, lui donnèrent une connaissance complète de l'esprit turbulent qui agitait la province. Il adressa à l'Assemblée la remontrance énergique suivante, Londres, le 29 jour du quatrième mois, 1710. Mes vieux amis, c'est pour moi une triste considération, et la cause d'une profonde affliction, que d'être forcé, par les oppressions et les déceptions qui m'ont été échues en cette vie, de parler au peuple de cette province dans un langage que j'avais espéré n'avoir jamais employé. Mais les nombreux troubles et oppositions que j'y ai rencontrés m'obligent, avec simplicité et franchise, à vous faire des remontrances sur leur cause. Lorsqu'il plut à Dieu de m'ouvrir une voie pour établir cette colonie, j'avais lieu d'attendre une solide consolation des services rendus à plusieurs centaines de personnes. Et ce n'est pas une petite satisfaction pour moi que de ne pas avoir été déçu en les voyant prospérer et devenir un pays florissant, béni de liberté, d'aisance et d'abondance, au-delà de ce que beaucoup d'entre eux pouvaient espérer, ne manquant de rien pour être heureux, sinon de ce qu'avec un esprit bien disposé, une conduite prudente, ils pourraient se donner à eux-mêmes. Mais hélas ! Pour ce qui est de moi, au lieu de recueillir des avantages semblables, certaines de mes plus grandes peines sont nées de là-bas, les nombreux combats dans lesquels je me suis engagé, les grandes peines et les dépenses incroyables, pour votre bien-être et votre tranquillité, au détriment de mon ancien patrimoine, dont quoi qu'on puisse en dire là-bas, je ressens trop sensiblement les effets, jointe à l'opposition imméritée que j'ai rencontrée me plonge dans une tristesse qui, si une main supérieure ne m'avait soutenue, m'aurait depuis longtemps. Et je ne puis m'empêcher de trouver dur qu'alors que cette terre s'est montrée un pays de liberté et de prospérité, elle devienne pour moi, par les moyens duquel elle a principalement été faite un pays, la cause de chagrin, de tourments et de pauvreté. Pour cette raison, je dois vous demander à tous de toute profession et de tous degrés, car si tous n'ont pas participé aux mesures qui ont été prises, toutefois tout homme qui a un intérêt là-bas et ou doit être concerné par leurs effets. Je dois donc, dis-je, vous demander à tous, dans un sérieux et un véritable recueillement d'esprit, de considérer ce que vous faites ou avez fait. Pourquoi les affaires doivent-elles être menées au milieu de ces divisions et de ces querelles, et quelles causes réelles, de mon côté, ont été données pour cette opposition à ma personne et à mes intérêts que j'y ai rencontrés, comme si j'étais un ennemi et non un ami, après tout ce que j'ai fait et dépensé, ici et là-bas. Je suis certain que je ne connais aucune cause, quelle qu'elle soit. Si je sentais que vous manquiez réellement de quelque chose de ma part, dans la relation qui nous unit, qui vous rendrait plus heureux, je l'accorderais volontiers, si un homme raisonnable disait qu'il est convenable que vous le demandiez, pourvu que vous preniez aussi des mesures convenables pour que je puisse m'y associer. Avant qu'aucune famille ne se soit transportée là-bas, je m'efforçais ardemment de former un modèle de gouvernement qui pût mettre à l'aise tous ceux qui y étaient concernés, modèle qui néanmoins pouvait être modifié selon les besoins. Peu après notre arrivée, ce modèle parut, en certains de ses points, très incommode, sinon impraticable. Le nombre de membres, tant au Conseil qu'à l'Assemblée, était beaucoup trop grand. D'autres dispositions encore se révélèrent incompatibles avec la charte du roi en ma faveur, si bien que, conformément au pouvoir réservé d'y apporter des changements, il devint nécessaire d'en effectuer un, et si l'on y fit entrer les comtés inférieurs, il était alors bien connu que c'était en vue de l'avantage de la province elle-même, ainsi que de celui des habitants de ces comtés, et pour la satisfaction générale des intéressés, sans la moindre crainte d'irrégularité dans la méthode. Sur cela, ils obtinrent l'adoption d'une autre charte, ne mine contradissante, que j'ai toujours souhaité voir maintenue, pourvu que vous-même vous y conformiez et la mettiez en pratique, et beaucoup là-bas savent combien ce fut contre ma volonté que, lors de mon dernier voyage, elle fut annulée. Mais après que celle-ci eut été mise de côté, ce qui, en vérité, avait commencé de votre fait au temps du colonel Fletcher, je laissai conformément à mon engagement une autre charte, avec tous les privilèges jugés commodes pour votre bon gouvernement, et si quelque partie en a été, en quelque cas enfreinte, ce ne fut jamais avec mon approbation. Je désirais qu'on en jouît pleinement. Mais si les privilèges doivent être préservés avec délicatesse, ils ne doivent pas, d'autre part, être revendiqués sous ce nom jusqu'à la licence. Le but du gouvernement est de conserver le bon ordre, qui peut être également troublé par les entreprises turbulentes du peuple, comme par l'excès de pouvoir d'un gouverneur. J'ai voulu que le peuple fût assuré d'une élection annuelle fixe et d'une assemblée, et qu'il y eût les mêmes privilèges que toute autre assemblée dans les dominions de la reine. Parmi ces privilèges, il y a une règle constante, comme au Parlement ici, qu'ils siègent selon leurs propres ajournements. Mais étirer cette expression jusqu'à un pouvoir de se réunir à tout moment de l'année sans l'assentiment du gouverneur, ce serait dénaturer le gouvernement, rompre la juste proportion de ses parties, établir la confusion à la place de l'ordre nécessaire, et faire du législatif la partie exécutive du gouvernement. Or, pour obtenir ce pouvoir, je vois qu'on a dépensé beaucoup de temps et d'argent, et qu'on a mené de grandes luttes non seulement pour celui-ci, mais pour certaines autres choses qui ne peuvent nullement être à l'avantage du peuple de les posséder, notamment la nomination des juges, car l'administration pourrait, par de tels moyens, être à ce point entravée qu'il deviendrait difficile, sinon impossible, dans nos circonstances, de la soutenir à certains moments. Quant à moi, comme je ne désire rien davantage que la tranquillité, et la prospérité de la province et du gouvernement dans toutes ses branches, si je pouvais voir que l'une quelconque de ces choses disputées servirait certainement ses fins, il m'importerait peu la manière dont elles seraient réglées. Mais puisque l'ossature de tout gouvernement doit être régulière en elle-même, bien proportionnée et subordonnée dans ses parties, et que chaque branche doit être investie d'un pouvoir suffisant pour s'acquitter de son devoir propre au soutien de l'ensemble, j'ai tout lieu de croire que rien ne saurait lui être plus destructeur que d'ôter une si grande part du volet de prévoyance et d'exécution des mains du gouverneur pour la déposer dans un corps collectif incertain, et plus encore puisque notre gouvernement est dépendant, et que je réponde. À ces considérations, je ne puis croire prudent que le peuple réclame de tels pouvoirs, car non seulement moi, mais eux-mêmes, courraient le risque d'en souffrir. Si je pouvais croire autrement, je ne m'opposerais pas à accorder quoi que ce soit de ce genre qu'on me demanderait avec un tant soit peu de prudence et de civilité commune. Mais au lieu de trouver matière à croire que les crêles soulevées sur ces points n'ont procédé que d'erreurs de jugement, avec, au fond, un ardent désir de servir le public, ce qui, je l'espère, a néanmoins été l'aiguillon de plusieurs de ceux qui s'y sont mêlés, j'ai eu le spectacle, hélas trop douloureux, de la manière dont on m'a traité. Les attaques contre ma réputation, les nombreuses indignités qu'on m'a infligées, par des papiers envoyés ici entre les mains de gens dont on ne pouvait attendre qu'ils en fissent l'usage le plus discret et le plus charitable, les insinuations secrètes contre ma justice, outre l'atteinte portée à mon patrimoine, des résolutions votées dans les assemblées pour détourner mes quitrents, jamais vendus par moi, au soutien du gouvernement, mes terres occupées sans aucune méthode régulière, mes manoirs envahis sous prétexte que je ne les avais pas. Lorsque je réfléchis à tous ces chefs de plainte, dont j'ai tant de raisons de me plaindre, et qu'en même temps je songe aux difficultés auxquelles moi et ma famille souffrant avons été réduits, en grande partie à cause de mes efforts pour cette province et des déceptions qu'elle m'a causées, je ne puis que déplorer le malheur de mon lot, venu de ce dont j'avais lieu d'attendre de bien meilleures et différentes choses. Et je ne puis que lamenter le malheur que trop d'entre eux attirent sur eux-mêmes, qui, au lieu de suivre les voies amicales de la paix, de l'amour. Amis, les yeux de beaucoup sont sur vous. Les peuples de nombreuses nations d'Europe regardent ce pays comme une terre d'aisance et de tranquillité, se souhaitant en vain les mêmes bénédictions qu'ils pensent que vous possédez. Mais voir l'usage que vous en faites n'est pas moins cause d'étonnement pour d'autres, quand on voit venir de vous des plaintes et des reproches si amers, dont il est difficile de concevoir même le sens ou la portée. Où sont les détresses, les griefs et les oppressions sous lesquelles, disent si souvent les papiers envoyés de là-bas, vous languissez, alors que d'autres ont lieu de croire que, jusqu'ici, vous avez vécu, ou pourriez vivre, les plus heureux de tous dans les dominions de la reine. Est-ce une oppression si grave que les tribunaux soient établis par mon pouvoir, fondés sur la charte du roi, sans une loi faite par vous, alors que vous proposez sur le même plan? Si cela en trouble certains, prenez l'avis d'autres juristes compétents sur le fond, sans m'enchaîner à l'opinion principalement d'un seul homme, que je ne puis juger si propre à diriger mes affaires, car je crois que la dernière assemblée n'avait parmi elle que ce seul avocat, et je consens volontiers à ce que vous ayez toute loi que des juges compétents jugeront convenable. Est-ce votre oppression que les droits des officiers ne soient pas fixés par un acte de l'assemblée? Nul ne peut être plus ennemi des exactions que moi. Accordez donc des droits qui puissent raisonnablement encourager des personnes aptes à accepter ces charges, et vous aurez bientôt et vous auriez toujours dû l'avoir de bon gré mon assentiment, et j'espère celui de mon lieutenant, avec son approbation. Est-ce une oppression si grande que les licences des auberges n'aient pas été réglées, comme on l'a proposé? C'est un signe certain que vous êtes étranger à l'oppression et que vous n'en connaissez que le nom, lorsque vous l'appliquez si hautement à des choses si peu considérables, mais cette affaire, je trouve, est réglée. Si je pouvais connaître quelque oppression réelle sous laquelle vous êtes, qu'il soit en mon pouvoir de réparer, et ce que je souhaite que vous preniez des mesures propres à réparer, si vous sentez vraiment quelque chose de tel, je serai aussi prêt de mon côté à l'ôter que vous le désirez, mais selon le meilleur jugement que je puisse porter sur les plaintes que j'ai vues, et vous pensiez autrefois que j'en avais un assez bon, je dois avec un profond sentiment de tristesse, dire que je crains que la main bienveillante de la Providence qui vous a... Je n'écris pas ceci, dans l'intention d'inclure tout le monde. Je ne doute pas que beaucoup d'entre vous aient été accablés par ces choses, et ne puissent en aucune manière se joindre aux mesures qui ont été prises. Mais tant que de tels actes paraissent sous le nom d'une assemblée censée représenter le tout, je ne puis m'empêcher de parler plus généralement que je ne le souhaiterais, bien que je ne sois pas insensible aux méthodes dont on peut user pour obtenir le poids d'un tel nom. J'ai déjà été long, et je dirai donc maintenant brièvement que l'opposition que j'ai rencontrée de là-bas doit, à la fin, me forcer à considérer de plus près ma situation privée et déclinante en rapport avec cette province. En attendant, je vous demande à tous de peser sérieusement ce que j'ai écrit, avec votre devoir envers vous-même, envers moi, et envers le monde, qui a les yeux sur vous et est témoin des soins précoces et ardents que je vous ai portés. Je dois penser qu'il y a là un respect qui m'est dû et qui, ces derniers temps, ne m'a pas été rendu. Je vous prie d'y réfléchir pleinement, et de penser sobrement à ce que vous avez à me demander d'un côté, et à ce que vous devez accomplir envers moi de l'autre, car de la prochaine assemblée, j'attendrai de savoir ce que vous résolvez et sur quoi je puis compter. Si je dois continuer mes égards envers vous, que je m'y trouve engagé par une disposition semblable de votre part envers moi. Mais si, après cela, une pluralité estime ne me devoir aucun égard, ou pas plus que ce que j'ai rencontré depuis quelques années, qu'une élection équitable le déclare ainsi, et je saurai alors, sans plus d'incertitude, sur quoi je puis m'appuyer. Que Dieu vous donne sa sagesse et sa crainte pour vous guider, afin que notre pauvre pays puisse encore être béni de paix, d'amour et d'industrie, et que nous puissions une fois encore nous rencontrer bons amis, et vivre ainsi jusqu'à la fin, notre relation dans la vérité n'ayant qu'un seul et même véritable intérêt. Je suis, avec une entière vérité et les sentiments les plus sincères, votre véritable ami, ainsi que votre juste propriétaire et gouverneur. William Penn, lors de l'élection, un ensemble entièrement nouveau de membres fut renvoyé à l'Assemblée, et un degré d'harmonie entre eux et le gouverneur, qui avait été inconnu depuis plusieurs années, marqua le déroulement de la session. Et cet état de choses se maintint avec peu d'interruptions pendant le court laps de temps où William Penn fut en mesure de prendre une part active à ses affaires. La couronne anglaise devait payer à peine 12 000 livres en 4 versements annuels. Avant que l'affaire puisse être définitivement réglée, elle devait être ratifiée par une loi du Parlement. Toutefois, il semblait y avoir peu de raisons de douter que l'affaire fût pratiquement conclue, et Penn la considéra comme telle. Bien qu'il eût alors presque 70 ans, il fit de nombreux voyages à travers l'Angleterre afin de répandre les doctrines Quakers. Dans ses moments de loisir, il ajouta de nombreuses maximes au recueil qu'il avait constitué et écrivit encore d'autres textes. Il semble avoir renoncé à l'idée de retourner dans sa maison de Pensbury, bien qu'il parlât parfois comme s'il aimerait y revenir, si seulement ses affaires à Londres le lui permettaient. Quelque temps auparavant, il avait été pris de malaise, ce qui ressemblait à une attaque de paralysie. Il s'en remit, mais une seconde rechute survint. Et alors, le 24 du 5e mois 1712, William Penn commença une lettre à James Logan dans laquelle, après avoir évoqué avec émotion la mort du père et de la mère de sa femme, sa plume s'arrêta soudain, sous la pression d'un accès paralytique. C'était la troisième fois qu'il était frappé de paralysie, mais cette fois-ci, bien plus sévèrement que jamais, et son esprit ne se remit jamais des effets de cette attaque. Son caractère doux et son humeur heureuse demeurèrent, et un cœur débordant d'amour pour Dieu et pour les hommes était aussi visible qu'à ses jours les plus brillants. En fait, le souvenir de toutes les choses récentes, et avec lui l'inquiétude mentale et la puissance intellectuelle, avaient disparu, tandis que l'esprit restait le même. Il continua d'assister aux réunions des amis, et parfois prononçait quelques phrases exhortant les amis à s'aimer les uns les autres, tandis qu'avec un visage rayonnant de sympathie et de bonté, il avait coutume de les accueillir et de les quitter. Dans cet état, la vie s'écoula avec peu de changements durant 5 ans. Bien que calme et serein, il ne pouvait plus traiter les affaires avec intelligence. Cela empêcha l'achèvement de la vente de son titre sur la Pennsylvanie, car son esprit étant affaibli, il ne pouvait remettre au gouvernement un acte valable. Par conséquent, le titre sur la province resta dans sa famille jusqu'à la Révolution américaine en 1776. Lorsqu'il ne put plus s'occuper des affaires de Pennsylvanie, sa femme en prit la charge et les administra avec beaucoup de compétence. C'est elle qui révoqua un lieutenant-gouverneur qui se crêlait avec l'Assemblée sur place et nomma à sa place un excellent gouverneur, ce William Keith, qui se révéla un officier populaire et très efficace. De plus, le commerce en Pennsylvanie commençait à présent à prospérer, si bien qu'en peu de temps la province devint beaucoup plus précieuse et il s'avéra avantageux pour la femme et les enfants de Penn qu'il n'eût pas vendu son titre à la couronne anglaise. Penn demeura invalide jusqu'à sa mort le 30 juillet 1718, et durant ce temps, délivré des soucis concernant sa province, il se réjouit de la vie paisible à la campagne à Ruscombe, et de la compagnie de sa femme dévouée et de ses plus jeunes enfants. Beaucoup d'amis vinrent lui rendre visite, et le dimanche on le conduisait en voiture au lieu de réunion, où il parlait parfois brièvement, proclamant toujours sa foi dans la religion qui avait été le guide et le soutien principal de sa vie riche en événements. William Penn fut toujours un homme profondément religieux et honorable, parfaitement sincère et indomptable dans la défense de ce qu'il croyait être la vérité. Ce fut un grand homme, car il guida la nouvelle secte des Quakers à travers ses premières épreuves, il eut la vision de leur bâtir une nouvelle patrie au-delà des mers, et de leur fixer des normes de liberté et de gouvernement bien en avance sur son époque. Ses erreurs de jugement furent d'avoir trop souvent fait confiance aux mauvais hommes et d'avoir fréquemment montré une naïveté d'enfant dans le soin des affaires d'argent. Ses défauts, toutefois, ne furent jamais des défauts de caractère, mais plutôt l'effet d'une nature trop généreuse et confiante. On le représente d'ordinaire comme un Quaker calme et simple, vêtu sobrement et se souciant peu ou point du luxe ou de l'apparat. C'était un homme d'action, naturellement porté à la vie de cour, à l'aise avec le pouvoir. Pendant qu'il vécut en Pennsylvanie, il vécut dans le confort nécessaire à son rôle de gouverneur, et il jouissait de sa réputation parmi les Quakers, tant en Pennsylvanie qu'en Angleterre. Sa province de Pennsylvanie fut à la fois la joie et le tourment de son existence. Il aimait son idéal de ce que devait être une telle colonie, mais, comme on peut s'y attendre lorsqu'il s'agit de gouverner des hommes imparfaits, il y trouva beaucoup de difficultés. Il traita équitablement les colons et les Indiens, probablement plus équitablement que tout autre gouverneur d'une colonie américaine, et les Indiens semblaient apprécier sa justice plus que ne le faisaient les hommes blancs. La colonie lui devait quelque chose par son gouvernement, mais bien davantage encore par le noble esprit de liberté religieuse dans lequel il l'avait fondée. C'est là qu'on trouve ce qui a rendu le nom de William Penn illustre et aimé, car il avait une grande vision de la liberté humaine, et il travailla puissamment à faire de cette vision une réalité. À la lumière de ses splendides ambitions, ses erreurs comptent pour peu. Note des éditeurs du site. En vérité, Penn fut tourmenté par les frustrations du gouvernement, particulièrement lorsqu'il fut contraint de gouverner à distance de plusieurs milliers de milles, avec des délais de semaines ou de mois, entre la correspondance et les réponses. C'est une difficulté que je ne puis même pas imaginer, et certainement une difficulté pour laquelle je ne peux qu'admirer la patience dont il fit preuve tout du long. Il a choisi cette difficulté, celle devant laquelle je me serais aussitôt dérobée, mais il l'a accomplie admirablement. Oubliant les frustrations, ses accomplissements séculiers furent considérables. Tailler à partir d'une région sauvage, une colonie prospère, réussie et paisible, et établir une forme de gouvernement qui influença grandement la Constitution des États-Unis, en particulier la Déclaration des droits, Bill of Rights, dont nous jouissons encore aujourd'hui en Amérique. Il fit cela à temps partiel, absent pendant de nombreuses années, tout en étant occupé par l'œuvre du Seigneur, guidant la Société des Amis tant en Angleterre qu'en Amérique par sa direction et son ministère. La sainte expérience de Pennsylvanie fut la merveille de l'époque, et c'est à lui seul qu'en revient la part écrasante du mérite. Il fut infatigable à défendre les défavorisés et les opprimés, les représentant admirablement à la cour du roi Jacques, et soulageant personnellement la souffrance partout où il la rencontrait. Et il ne perdit jamais de vue son ministère, en Amérique, en Angleterre, en Irlande, en Hollande et en Allemagne. L'extrait de la lettre ci-dessous sert de témoignage de sa grandeur dans la vie du Christ, à William Penn, cher et fidèle, que le Seigneur a choisi, reconnu et honoré par sa vérité éternelle, et qui t'est manifesté comme un vrai disciple de l'agneau. Béni sois-tu à jamais, toi qui as choisi la bonne part, qui ne te sera jamais ôtée, mais en elle tu aimeras, croîtras, prospéreras et seras revêtu de beauté, de gloire et de majesté. L'amour de mon cœur et de mon âme te demeure cher en mémoire, et mon esprit se réjouit de ta fidélité et de ta diligence dans l'œuvre et le service du Seigneur. Tu es un instrument nouveau et fidèle dans la main du Tout-Puissant pour la diffusion de sa vérité et l'exaltation de son royaume. Ô, ton nom sera gardé en mémoire éternelle parmi tous les fidèles, à mesure qu'ils entreront dans ce même esprit de grâce, de vie et de puissance par lequel tu es mu et porté pour le bon service que tu accomplis pour le Seigneur, pour sa vérité et pour le rassemblement de sa semence élue. Il te le rendra au centuple dans ton sein. Ô, qu'ils sont beaux, tes pieds qui annoncent la bonne nouvelle aux pauvres et la liberté aux captifs, Isaïe 61:1-2. Des enfants qui ne sont pas encore nés béniront le Seigneur à cause de toi. J'ai reçu ta douce et bénie lettre, qui m'a été une grande joie, ainsi qu'à beaucoup d'autres, d'entendre parler de ce bon service pour le Seigneur. Le jour où elle me parvint ici, j'étais en réunion, et le Seigneur me poussa à la lire pendant la réunion. Ce fut un grand réconfort, une joie et une allégresse pour le cœur des amis d'entendre parler de ton bon service et de la prospérité de la vérité. Ô béni et honoré à jamais par le Seigneur Saint, lui qui élargit les frontières de ce sanctuaire et répand au loin sa vérité. Béni soient ceux qui la publient. Cher William, les amis sont ici grandement réjouis et rafraîchis dans le Seigneur à ton sujet, du fait que tu as eu une tendre sollicitude pour les amis au cours de tes grands déplacements et voyages. Mais ce n'est ni la mer ni la terre, ni la hauteur ni la profondeur, qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il a répandu dans le cœur de son peuple. Ton épître imprimée a été très utile et a été reçue avec beaucoup d'affection parmi les amis. Rappelle mon amour très cher et éternel à ta chère épouse, que j'honore dans le Seigneur pour sa fidélité, sa constance et son innocence. Que le bras du Tout-Puissant vous préserve et vous garde, tous deux dans ce lien et cette alliance d'amour et de vie qui ne peut jamais être rompue. l'amour de mes filles Sarah, Susanna et Rachel vous est à tous deux rappelé avec affection et fidélité. Et je sais qu'il en est de même de mon fils et de ma fille Loe, mais ils ne savent pas que j'écris maintenant. Robert Withers était ici aujourd'hui, et son cher amour est pour toi. Et Thomas Langhorn aussi se souvient de son cher amour pour toi. Et ainsi, bien-aimé, c'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais mon amour qui ne meurt jamais demeure avec toi, et je suis ta chère amie et sœur dans le Seigneur. Margaret Fox, mis à jour d'après la source, Undaunted Zeal, de l'été of Margaret Fell, 2003 LSAF. Glynn, pp. 421-422, une riche collection de 166 lettres de Margaret Fell avec un commentaire abondant et des notes historiques. Chapitre XV, la Pennsylvanie sous les descendants de Penn, le fils de William Penn, né de sa première épouse, portant son propre nom, celui qu'on avait envoyé en Pennsylvanie dans l'espoir qu'il renoncerait à sa vie dissolue, hérita des biens d'Angleterre et d'Irlande, dont la plus grande part avait appartenu à sa mère. Letitia, qui avait épousé William Aubrey, avait déjà reçu un douaire et reçu plus tard 10 000 acres de terre en Pennsylvanie, tout comme chacun des enfants du jeune William, Gulielma, Maria, Springett et William. Le reste des biens de Penn revint à sa seconde épouse, Anna Penn, et à leurs 5 enfants John, Thomas, Margaret, Richard et Denny. Anna Penn possédait pratiquement tous les pouvoirs sur la province que son mari avait exercée, et elle s'en servit avec compétence, se montrant une excellente femme d'affaires. Elle fit en sorte que son fils aîné, John, devienne le principal propriétaire de la province, comme on l'appelait, et que ses frères Thomas et Richard en soient les associés. Le plus jeune fils, Denny, mourut très jeune. De 1712 à 1727, Anna Penn administra les affaires de Pennsylvanie, et avec bien plus de succès que son mari. Il avait laissé sa province dans un état de dette tel qu'il avait semblé qu'il faudrait la vendre à la couronne pour assainir la situation. Mais Anna Penn la laissa à ses 3 filles dans un état si excellent qu'on la considérait généralement comme l'un des plus beaux domaines du monde appartenant à des particuliers. Ce William Keith, le gouverneur nommé par Anna Penn, administra les affaires avec succès pendant quelque temps, mais des désaccords finirent par surgir avec Madame Penn. Il croyait que son fils John ne serait pas un bon administrateur de la province et conseilla secrètement aux dirigeants populaires de la colonie d'essayer d'abolir le système de gouvernement propriétaire. Cela amena Anna Penn à nommer Patrick Gordon pour succéder au gouverneur Keith en 1726. En 1732, Thomas Penn fit une visite en Pennsylvanie et il fut suivi par son frère aîné John en 1734. Aucun de ses fils de William Penn ne fit bonne impression à Philadelphie, et l'on dit même que les habitants y préféraient le jeune William Penn, malgré tous ses mauvaises manières et sa turbulence, à ses 2 demi-frères. Ni John ni Thomas ne semblent avoir eu l'ouverture d'esprit et la bienveillance de leur père, mais plutôt avoir été sans scrupules, autoritaire et trop avide de tirer de la colonie tout l'argent possible. John était un peu mieux aimé que Thomas, qui semblait n'avoir de sens que pour gagner de l'argent. Benjamin Franklin, qui était rédacteur de la Pennsylvania Gazette durant la visite des 2 fils de Penn à Philadelphie, mais qui n'avait jamais rencontré le jeune William Tapageur, aurait dit à un ami que, d'après tous les témoignages, il y avait plus de gentleman chez Billy Penn ivre que chez ces 2 Penn sobres. John Penn retourna en Angleterre en 1736 et Thomas en 1741. Aucun des deux ne revint jamais en Pennsylvanie, n'ayant à peu près pas plus d'affection pour la province de leur père que la province n'en avait pour eux. Le gouverneur Gordon, nommé par Anna Penn, eut une administration heureuse et occupa la charge jusqu'à sa mort en 1736. Les frères Penn choisirent alors George Thomas pour lui succéder, et il se montra un partisan très loyal de l'Angleterre jusqu'à sa démission en 1747. James Hamilton, premier gouverneur de Pennsylvanie né et élevé en Amérique, lui succéda et se révéla le gouverneur le plus populaire depuis la seconde visite de William Penn dans sa province. Le gouverneur Hamilton estimait que la Pennsylvanie se porterait mieux comme colonie anglaise que sous la propriété de la famille Penn, et la plupart des habitants partageaient son avis, mais aucune mesure précise ne fut prise en ce sens. John Penn était mort, et les 2 frères qui lui survivaient, Thomas et Richard, savaient qu'Hamilton était trop populaire auprès des Pennsylvaniens pour être écarté de ses fonctions. Au bout d'un certain temps, toutefois, les désaccords s'accentuèrent au point qu'Hamilton démissionna, et les gouverneurs qui suivirent durent affronter de nouvelles difficultés, nées du fait que les Français influençaient les Indiens contre les colons anglais, en Pennsylvanie comme en Nouvelle-Angleterre et à New York. La politique de William Penn consistant à traiter équitablement les Indiens avait été abandonnée par ses fils, et les frontaliers en ressentirent le contre-coup sous forme d'attaques incessantes contre leurs établissements isolés. Les Quakers ne croyaient pas à la guerre, mais les hommes des frontières de Pennsylvanie, Écossais-Irlandais, Suisses et Allemands, durent s'armer et former des compagnies pour se protéger, après la défaite du général Braddock face aux Français et aux Indiens. Ils estimaient devoir recevoir quelques aides, financières à défaut d'autres, de la part des riches habitants de l'île de la province, et à la fin, ils parvinrent à faire voter par l'Assemblée des fournitures. Lorsqu'il s'agit de lever cet argent, les biens des Penn durent être taxés, ce qui causa la plus grande offense à Thomas et Richard Penn en Angleterre. Ils révoquèrent le gouverneur et tentèrent de combattre l'impôt, mais les colons répondirent en votant de nouveau l'impôt et en augmentant même le montant que les Penn devaient payer. Le gouverneur révoqué dit à Franklin qu'il était heureux d'être débarrassé de cette charge, ajoutant que 3 ans de gouvernorat tel qu'il l'avait exercé rendrait n'importe quel homme hostile au système propriétaire. À quoi Franklin répondit, particulièrement avec Tom et Dick Penn comme propriétaires. En 1763, John Penn, fils de Richard et petit-fils de William Penn, devint gouverneur, et son mandat fut le plus orageux et le moins honorable de tout ce que la province ait connu. Durant sa première année, une révolte éclata dans les montagnes, qui fut connue sous le nom de « Révolution des garçons de Paxton ». Une foule de montagnards défia un bataillon de réguliers britanniques dans la ville de Lancaster et annonça que, si les réguliers osaient tirer, ne serait-ce qu'un seul coup de feu, leurs scalps orneraient chaque cabane du Susquehanna à l'Ohio. Les soldats ne tirèrent pas, et les Paxton Boys se servirent alors de tous les chevaux qu'ils voulaient, prirent les chariots de munitions appartenant aux troupes régulières et partirent pour Philadelphie. Ils étaient presque 1 000 000 lorsqu'ils arrivèrent sur les hauteurs de Germantown, et ils exigèrent alors que certains Indiens, maintenus sous garde dans les Northern Liberty, leur soient livrés, sous peine, autrement, de mettre la ville à sac. Les citoyens constatèrent que l'on ne pouvait pas compter sur les troupes régulières et envoyèrent quelques députés négocier avec les rebelles. En acceptant tout ce que ces derniers demandaient, à l'exception du massacre des Indiens, les députés parvinrent finalement à convaincre les montagnards de retourner chez eux. Très peu de temps après, l'Assemblée adressa une pétition au Parlement anglais pour abolir le régime propriétaire. Il est intéressant de rappeler que ce terme, « liberty », avait été appliqué à certaines étendues de terres situées au nord et à l'ouest des limites originelles de Philadelphie. Les terres de ces étendues étaient appelées « liberty land » ou « free law » parce que William Penn avait fait don de terres dans ces secteurs aux premiers acheteurs de l'eau dans la ville proprement dite, la quantité de terres gratuites données étant proportionnelle à la quantité de terrains urbains achetés. L'expression « City and Liberty of Philadelphia » était couramment utilisée au début de la province, la ville couvrant environ 1820 acres, et les Liberties environ 16 236 acres. Plus tard, les Northern Liberties devinrent une partie de la ville de Philadelphie. Avant que le Parlement ne le fasse toutefois, un autre incident malheureux s'était produit dans la province. Vers 1762, 50 familles du Connecticut s'étaient installées dans la vallée du Wyoming, en Pennsylvanie, et jugeant le pays très productif, elles avaient défriché des clairières, construit des cabanes en rondins et cultivé des champs de maïs. John Penn, le gouverneur, en entendit parler et en 1764, il envoya des constables dans cette implantation pour sommer les pionniers de partir, prétendant qu'ils se trouvaient sur des terres concédées à son grand-père. La colonie du Wyoming comptait alors environ 3 000 personnes et elles n'étaient naturellement pas disposées à abandonner leurs terres. Une compagnie fut alors constituée à Philadelphie pour acheter cette région à John Penn et, en tirant parti des améliorations apportées par les colons du Connecticut, la commercialiser comme bon lui semblerait. Elle n'accepterait toutefois de l'acheter qu'à condition que John Penn chasse d'abord les colons. Aussi John Penn, en 1770, engagea-t-il une bande de vauriens pour aller dans la vallée du Wyoming et chasser les pionniers de leurs cabanes et de leurs champs. Les colons répondirent aux exigences de Penn en construisant un fort qu'ils baptisèrent Fortifort, en l'honneur des premiers colons, au nombre de 40. On les désignait toujours sous le nom des First Forty, et ils étaient tenus en haute estime. Ils avaient été envoyés dans la vallée du Wyoming par la Susquehanna Company du Connecticut. Après quelques combats, les colons réussirent à tenir bon. Cela devint connu sous le nom de guerre des Pennamites, et bien que le gouverneur fût soutenu par certains des notables de Philadelphie, ses tentatives pour expulser les colons rendirent son gouvernement plus odieux que jamais à un peuple de plus en plus épris des libertés. La révolution américaine approchait, et le comité de sûreté de Pennsylvanie décida qu'il était temps d'annuler la charte qui avait été accordée à William Penn et d'abolir le gouvernement propriétaire. Ainsi, 2 mois après la signature de la Déclaration d'indépendance, en 1776, le Comité de sûreté, s'appelant désormais le « Conseil exécutif suprême », destitua John Penn de ses fonctions et décréta que ce qui avait été la province de Pennsylvanie deviendrait un État au sein de la nouvelle Union américaine. Les frontières de la Pennsylvanie étaient alors définitivement fixées et, incidemment, ces frontières englobaient la riche vallée du Wyoming, où se trouve aujourd'hui la prospère ville de Wilkes-Barre. Le titre qui appartenait à la famille Penn fut alors transféré à l'État, et l'État alloua 130 000 livres à verser aux héritiers de William Penn. En plus de cette somme, les héritiers de William Penn, ayant pris le parti des Tories durant la Révolution, réclamèrent une importante indemnité au gouvernement anglais après la Révolution, fondant leur demande sur l'acte du Parlement qui acceptait d'indemniser les fidèles sujets de Sa Majesté britannique des pertes subies pendant la guerre d'Amérique. Le gouvernement anglais régla cette demande en versant 500 000 livres aux héritiers de William Penn. Ainsi, ces héritiers obtinrent de la Pennsylvanie et de l'Angleterre plus de 3 millions de dollars, tout en conservant les domaines privés en Pennsylvanie qui leur avaient toujours appartenu. En définitive, la province de Penn se révéla donc d'une très grande valeur pour ses enfants et petits-enfants. Bien que le peuple qui avait défriché et peuplé ce nouveau pays eût peu reçu de ses descendants, il dut se tourner vers le grand fondateur, William Penn, le Quaker noble et inébranlable, pour les idées prises de liberté et les sages principes de gouvernement qui contribuèrent à faire de la Pennsylvanie l'un des plus grands États de la Nouvelle Union. Il est bon que son nom demeure à jamais associé à cet État, car c'est le nom d'un homme de noble caractère et d'un champion intrépide de la liberté. Fin. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.